Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 18 avril 2015 et nous revoilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 14e volet de l'Entrepode. Un Entrepode aujourd'hui basé sur une bande d'allumés qui s'amuse à descendre des routes bien pentues fermées à la circulation sur des skateboards, longboards et tout ce qui peut avoir 4 petites roulettes et un morceau de bois pourvu qu'il ait les cheveux, soit au vent et l'adrénaline au maximum. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui le président des Riders en Bray qui organise le 8 mai prochain le show bouillant Freeride. Joli le...
Oui, tout à fait, petit jeu de mots.
Dans la commune de la Bouille, forcément, j'avais oublié de ça, ça passe forcément moins bien. Il est ici pour nous en parler, j'ai nommé Ludovic Turban.
Bonjour Ludo.
Bonjour à
tous. Salut Ludo.
Bonjour.
Merci lui, même avec une pente de 45 degrés, une vitesse de 75 km/h, une planche rivée sous les pieds, les cheveux ne bougeront pas. Car il y a bien longtemps qu'ils ont décidé de foutre le camp vers d'autres horizons. J'ai nommé Christophe, je suis désolé.
Oui mais bonjour. Oui mais il n'y a pas que ça qui peut aller au vent.
Celui-là c'est plutôt en caisse à savon, genre un petit bateau que je vois débouler sur les pentes à pleine vitesse, genre 17 km/h, lunettes d'aviateur et longue écharpe blanche façon Saint-Exupéry. J'ai nommé Lulu.
Wow. Bonjour.
On attendait une vanne, mais
aussi, non, je n'étais pas inspiré sur ce coup-là. Alors, par contre, là, je suis bon. Pour elle, ce serait plutôt un verre ballon, une bonne bouteille de vin, et là, on pourrait dire, ah bah putain, elle a une bonne descente, celle-là. Je me dirais, c'est comme ça que je l'aime, j'ai nommé Starlet. Et
Oops.
Enfin, il est de retour, enfin pas enfin, il y en a encore un après. Il est de retour après nous avoir lamentablement délaissé pour ce qu'il appelle des vacances en Espagne au bord de la mer en famille. N'importe quoi. T'as de la chance d'être encore parmi nous, tu ne recommences jamais ça, ok? J'ai nommé Freddy.
Salut.
En fait, j'étais à Dieppe.
Et enfin le patron, le boss en roller, grand, beau, il sait faire le triple loot piqué sur une jambe, il est capable de faire des descentes à contresens, c'est-à-dire dans l'autre sens. C'est un secret bien à lui, il est ici pour nous en parler. Mais non, en fait, lui, il reprend les rênes de l'émission, j'ai nommé Nico.
Merci.
Bravo, Barry.
Eh bien,
pas mal. Ouais, j'étais léger sur Lulu.
J'étais surpassé quand même.
C'est pas grave, j'ai adoré l'écharpe au
vent. L'écharpe au vent. L'écharpe au vent mauvais, c'est genre Aragorn.
L'écharpe au vent, ça me rappelle comme
un. Va juste falloir arrêter un petit peu les stéréotypes, genre Delphine qui boit, moi qui suis chaud.
C'est pas des stéréotypes, hein.
J'ai juste l'écharpe au vent, ça me rappelle comment elle s'appelle, Jane Mansfield qui s'est retrouvée décapitée, vous savez, dans les années 50, puisque son écharpe était au vent alors qu'elle roulait en voiture.
Oui.
L'écharpe s'est prise dans le moyeu de la mer. C'est terminé, au revoir Jane Mansfield, au plaisir.
C'est vrai?
Merci Marius.
Ça peut arriver aussi.
Ouais.
Un strict luge allongé, il faut vraiment faire attention à ça.
Avec la vitesse, ça s'enroule et c'est terminé. À la vitesse où laquelle ça a été
monté. Et ben, sur ces bonnes paroles pleines de joie et de bonne humeur.
C'était bien parti, niveau ambiance.
Et ben, donc, comme nous l'a dit Marius, nous sommes en avril 2015. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Entrepode. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, si vous avez compris quelque chose à la présentation de Marius, vous êtes très fort. Nous sommes encore nombreux autour de la table, même s'il nous manque. Didouille.
Didouille.
Eh oui.
Didouille. Didouille.
Non, elle n'est pas là.
Didouille.
Mais là, je suis là.
A priori, elle est en train de body pumper comme une folle ou un truc dans le genre.
Ah bah ça.
Enfin, en tout cas, elle agite son corps visiblement, d'après ce que j'ai compris.
En ce moment, pour pumper, elle pumpe.
Ah, écoute.
Elle pompe en agitant son corps.
Ah
j'ai
bah
rien
écoute,
compris.
Voilà.
C'est donc, plutôt shebam.
Elle fait, elle va body pumper, elle va body combatter et elle va shebamer en fait.
Bon.
D'accord. Et toi, tu t'inquiètes pas?
Non, tu sais.
Il est tranquille.
Pendant ce temps-là, je suis avec des amis, quoi. Donc...
En tout cas, c'est peut-être une bonne chose
oui.
Au final, puisque nous avons peut-être... Non, je rigole.
Bah oui.
En tout cas, on va peut-être
oui,
pouvoir réussir à équilibrer les micros cette fois-ci. Donc ouais. Ça t'est peut-être plus avantageux.
Et les oreilles s'en porteront bien mieux.
Juste pour dire qu'en fait, du coup, puisqu'elle n'est pas là, exceptionnellement,
on a compris qu'on
fera une...
Tu feras une rubrique.
Je la représenterai en mixant une rubrique à moi avec la sienne.
Oh, ça va être beau.
Une espèce de forme de symbiose.
C'est beau l'amour.
Une
fusion à distance comme ça.
Vous allez voir.
Ça va être bien entre potes encore.
Je suis pas certain. Mais...
Et donc, Freddy nous rejoint. Ça, c'est un plaisir hein, quand même.
Oui.
Monsieur Freddy. Ah, ça y est, Marius.
Ah oui,
flash comme un fou.
Attention,
Google Plus, si vous êtes là, si vous nous écoutez.
En léger différé.
Préparez-vous. Mais ça devrait être pas mal. Pour cet épisode, donc, nous avons donc. Un invité pour un sujet qui est assez inédit chez nous, hein, puisque
du
on a abordé
sport.
Pas mal de choses. Du sport, on n'a pas beaucoup parlé. et qui va nous présenter donc la descente sur roulette. Alors bon, c'est un peu succinct ma présentation, mais je doute pas qu'il nous expliquera un peu mieux ce qu'on.
Ça devrait.
Ce qui. Oui.
Les sont à roulette, mais pas à roulotte. Parce
que ça, c'est Marius. Ça.
C'est la première.
C'est pour toi, sport manouche. Voilà.
Moi, j'ai expliqué moi ce que faisait les descentes, les routes fermées. C'est... Non, c'est pas clair.
Ça, c'est pas suffisant, Marius.
Et donc, si vous nous écoutez régulièrement, vous êtes habitué à nos différentes rubriques. Mais si vous nous rejoignez pour ce numéro, voici le sommaire de l'épisode. Donc, un petit sujet concernant le retour sur les épisodes précédents. On attaquera avec notre rubrique à braque, le fourre-tout de sujets qui ont retenu notre attention. Viendra le moment central de l'émission avec notre invité. Freddy revient avec son quiz sous le bras.
Un quiz.
Ça y est. Il est sous le bras, c'est
il
bon.
Il est sous le bras.
Oh, quel... quiz, le mime Marceau aurait pas fait mieux.
Est-ce que c'est un quiz sur le sport?
Ce serait radiophonique.
C'est un quiz sur le sport.
Et puis
c'est un quiz sur... en relation avec notre invité, comme d'habitude.
Ah, bah, qu'est-ce que tu crois? Tu le connais pas ou quoi?
Tu veux dire sur l'Inde alors? Maharaja, non?
Et puis
turban.
Très bon.
Oh là 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 là.
Attention.
Il me regardait jusqu'à temps que je comprenne.
Et puis nous finirons avec nos coups de cœur ou coups de gueule de chacun en 60 secondes chrono. Mais bien entendu, Mister Lu nous a concocté une trouvaille qui risque encore une fois de nous emmener sur une pente glissante et vertigineuse à faire pâlir notre descendeur casse-cou ici présent. Pour avoir déjà eu un petit aperçu, je vous confirme que il y a dû avoir et à écouter en fait.
Ok.
Donc vous aurez la surprise. Et puis Ludo, t'es bien sûr libre d'intervenir quand bon te semble.
Et surtout
dans ton micro. On répète souvent aux invités, c'est de bien parler dans le micro parce que c'est quand même. T'es là pour qu'on t'entende, donc c'est un peu dommage si on n'entend que nous, quoi.
Ça marche. Par contre, pas trop souvent quand même. Oui, il n'y a rien de plus insupportable que les gens qui ont un avis sur tout.
Ça
peut être mon cas, donc je vais essayer de me contrôler.
Il paraît que t'es pas très fort, donc je vais essayer de régler ça en live. Mais parle bien près du micro.
Ok.
Comme ça, c'est parfait.
Pas très fort encore.
Belle voix.
En général, on essaie de se mettre en valeur plus par rapport à l'invité. Tu sais, on réduit tout ça et puis voilà. L'invité est un peu qu'un faire-valoir de nos propres égos, quoi. Donc.
Et donc, on va lancer tout de suite l'épisode.
Résumé de l'épisode précédent.
Et donc, pour commencer cet épisode, on revient sur les épisodes précédents, et c'est Freddy qui commence
avec
un sujet, oui.
Ben, un sujet, enfin un invité, surtout qu'on a eu il y a quelques mois. Vous souvenez tous de Monsieur Rêve, bouquiniste à Rouen, le rêve de l'escalier.
Assez souvent, oui.
Oui, et ben on n'a pas fini d'en parler, figurez-vous. Monsieur Rêve est jury du festival À l'Est du Nouveau.
Oh yeah.
Un festival de cinéma, donc. Qui s'achève, qui a déjà commencé. On est quelle date là?
On est le 18.
Alors il a commencé et il s'achève le 24 avril. Alors moi j'ai regardé un petit peu, j'ai pas vu tous les films, j'en ai vu aucun d'ailleurs, mais j'ai regardé toutes les bandes annonces.
J'ai pas vu tous les films,
j'en ai vu aucun
en fait.
Alors, ça me trouble un peu, il y a Marius qui est sur Google Plus et qui regarde des femmes à poil.
Les poilus, oui.
Et donc Monsieur Rêve est jury de ce festival, ce qui est quand même pas rien, une belle responsabilité pour lui. Donc j'ai regardé les bandes annonces, il y a des films qui méritent vraiment le détour, qui ont été primés plusieurs fois dans des festivals, pas ceux qu'on connaît nous, c'est pas Cannes, c'est pas Deauville. Mais,
peux-tu
mais...
justement donner le thème de ce festival?
Oui, alors, je l'ai pas dit, mais À l'Est du Nouveau, ça met en compétition des films d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. Et notamment, là, s'il fallait en dégager un, j'ai vu quelques images d'un film qui est là vraiment très bien, qui s'appelle Pour des raisons inexplicables, du Hongrois Gabor Reich. Ça a l'air vraiment très sympa. C'est plutôt sombre, on est plutôt dans la comédie dramatique, on est plutôt dans le social, c'est pas forcément très fun, mais alors ça a l'air vraiment d'être des super films, quoi.
D'accord.
Donc voilà, un petit clin d'œil à Monsieur Rêve.
Très bien. Bah écoute, on suivra le palmarès de ce festival. Donc À l'Est du Nouveau, un festival qui se déroule à Rouen. Et ça se déroule où?
C'est dans Rouen, mais pas seulement. C'est
d'accord.
Aussi à l'Ariel de Mont-Saint-Aignan. C'est aussi à Yvetot, je sais plus le nom du festival, du cinéma, pardon.
D'accord.
Mais dans plusieurs cinémas de la région, en tout cas.
D'accord. Bah, très bien. Merci, Freddy. Christophe, toi, tu avais un retour aussi
sur un sujet.
Ça m'a intrigué ce que tu as écrit.
Ouais. Je voulais revenir sur une petite news qu'avait balancé Ludo.
Ah oui, c'est là aussi, ça m'a intrigué.
Concernant la greffe de corps sur tête. Et en fait, cette news, elle a quand même pas mal voyagé dans les médias. Je ne sais pas si vous avez été un peu au courant. Et ça a interpellé la communauté scientifique, c'est-à-dire des chirurgiens notamment. Et ils ont dit donc que c'était quasiment impossible parce qu'au jour d'aujourd'hui, la greffe de moelle épinière et
c'est tout le débat.
Inabordable.
C'est tout le débat.
Techniquement.
C'est ce que le gars soutient alors, Spartacus contre la communauté scientifique.
Oui, le gars disait que c'était dans 2 ans, c'était possible de faire ça. Aujourd'hui, les scientifiques, ils disent que c'est pas moi, hein, je suis pas chirurgien, je suis pas médecin, ils disaient que c'était, le type,
il fabule,
il est tout seul contre une multitude de spécialistes en la matière.
Ça s'applique la méthode Coué, quoi.
Et donc, la greffe de moelle épinière est au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, c'est moche, mais impossible.
Alors, okay. a priori, juste un truc, c'est qu'il faudra donc attendre le mois de juin, puisqu'à la justement, c'était dans ce contexte-là.
Avant de se faire greffer une tête?
Il voulait présenter ça justement.
C'est con, je voulais le faire demain.
À la convention, justement, neurologique des neurologues au mois de juin, c'est ce qu'il avait dit dans face à cette, je dirais, levée de bouclier de l'intelligentsia, etc. Il veut présenter son projet.
Son projet. Il a peut-être une technique encore.
C'est ça qui est drôle, justement. C'est qu'en fait, tout le monde dit, mais c'est n'importe quoi ton truc. En fait, ça se fera.
Alors, sa technique, c'est plutôt guillotine bien net pour pouvoir recoudre plus facilement.
Alors moi ça m'avait vraiment intéressé parce que moi j'avais un donneur qui était d'accord pour me donner son corps
pour avoir des cheveux. Ah oui, non.
Par contre, ce que je pense, c'est que du coup on va faire un retour sur l'épisode au mois de juin.
On faudra revenir dessus.
Ce qui s'en est dit, si on
peut le fil rouge de 2015. Et en plus il est pas glauque du tout, donc c'est très bien.
Oui, parce que mon donneur sera toujours d'accord, je pense.
Bon, qui est ton donneur?
Ah, je le dis pas.
Non, faut pas. T'as raison, garde le secret. Il le sait peut-être pas lui-même, en fait, finalement.
Je crois que c'est ça, en fait.
Il est d'accord de ton point de vue. Moi, j'avais vite quelques petits retours sur différents sujets qu'on a abordés au cours depuis qu'on existe. Donc, le premier sujet, c'était Beats, donc l'émission d'Arte, réalisée, je crois, produite par Rafik Djoumi, d'ailleurs, que j'ai connu, moi, par Capture Mag, le podcast. Et j'avais pas tellement écouté suite à ce que tu nous avais présenté. Par contre, c'est vrai que sur la deuxième saison, je suis rentré dans les épisodes qui sont diffusés toutes les semaines, tous les mercredis.
Tous les mercredis. Alors moi, c'est l'inverse.
Et je trouve ça excellent. Moi, je suis vraiment rentré dedans. Et c'est mon petit rituel de toutes les semaines, de regarder un peu ces petites pastilles d'une dizaine de minutes sur Arte. C'est très geek, hein, quand même.
Oui.
Mais c'est intéressant. Moi, c'est geek social, high-tech.
J'ai suivi la saison 1, mais malheureusement pas la saison 2.
Bah, je t'invite à la regarder.
Il y a une autre série sur Arte.tv qui vient de sortir, qui s'appelle Do Not Track, et qui parle en fait du fait que nous sommes tous traqués sur Internet pour X raisons diverses. Je l'ai pas encore vu, mais ça a l'air vraiment bien.
Eh ben écoute, en tout cas, j'essaierai de le suivre parce que Beats, effectivement, c'était un très bon conseil. Autre sujet rapide, enfin là c'est un peu pour moi, je suis assez content. C'est le Hellfest dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps. Et j'ai fait une petite demande auprès des organisateurs et j'ai eu la chance d'avoir une invitation pour les 3 jours. Donc je vais pouvoir participer.
Ça, c'est bien ça.
Tu ne ramènes pas trop de son quand même.
si, c'est pour Christophe.
Ah, moi, j'attends un reportage.
Non, mais je vais essayer de faire quelque chose de bien organisé.
Des images surtout.
Des images, du son, enfin un peu de tout. Si j'arrive à croiser des festivaliers, reprendre des gens, des artistes, faut peut-être pas rêver. Mais déjà, le fait de pouvoir y participer alors que, je vous rappelle, le festival avait été sold out en à peine 3 semaines. Pour 38 000 personnes, c'est quand même un truc assez. Si je dis pas de bêtises, je me trompe peut-être d'ailleurs.
Non, c'est cohérent.
Je crois que c'est ça.
Mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc je suis assez content et je remercie d'ailleurs l'organisation du Hellfest de m'avoir permis cette participation pour les 10 ans. Rapide clin d'œil aussi sur Derek, une série qui devait être mon coup de cœur, je crois. J'avais dû en parler en tant que coup de cœur, une série Netflix. Pour dire qu'il y a un épisode final qui a été tourné et diffusé sur Netflix, qui est disponible donc depuis le 7 avril, et qui clôt donc les deux premières saisons de cette série. Alors, clairement, c'est pas forcément le meilleur épisode, mais il termine bien, voilà, la boucle est bouclée, et c'est toujours sympa de revoir ces personnages de Derek. Je sais pas si des gens l'ont vu, mais.
Oui, moi.
Oui.
J'ai bien aimé aussi.
Oui. Un clin d'œil à un de nos invités de Normandie Bulle. Alors ça, c'est Freddy qui m'a fait passer l'info. C'est vrai que je me la suis accaparé, mais tu vas pouvoir peut-être en dire plus que moi, puisque Benjamin Adam et sa collaboratrice, je crois que c'est Catherine Le Gall. J'ai que son initial.
Madame Le Gall.
Madame Le Gall, voilà. Ont reçu, avec la revue dessinée, le prix du meilleur article économique de l'année. Donc voilà, Benjamin était, quand on l'a vu à notre micro quelques minutes après, il avait un prix lors du festival Normandie Bulle, il a encore eu un prix, donc on a eu de la chance de l'avoir à notre micro quelques minutes.
On a fait sa carrière, lui, hein, on peut le dire.
Il explique bien.
Et on peut juste préciser que c'est à propos de l'article sur les empreintes toxiques.
Sur les empreintes toxiques.
Qui était paru dans la revue dessinée. Ouais.
Exactement, tu vois, tu es... Tu as bien fait de le préciser. Et puis un dernier point pour dire que j'ai lu l'œuvre dont nous avait parlé Christophe, donc Hard Melody de Lu Ming, que j'ai trouvé magnifique en termes graphiques. Delphine, tu l'avais lu aussi, je crois que l'histoire t'avait moins plu, non? C'est pas celui-ci? Sur la Hong Kong.
Ah, j'ai pas du tout aimé.
D'où l'intérêt. L'histoire t'a pas du tout embarqué,
bah, si bah, c'est-à-dire que ça a été très survolé, donc je suis pas rentrée dedans.
Ah, c'est
tout.
Une chronique en fait, enfin, c'est une tranche de vie en fait dans la Chine, enfin la Chine qui découvre un peu l'après communisme et qui se retrouve un peu perdue sans ses repères dans la Chine capitaliste, etc. Et c'est vrai que l'histoire est peut-être un peu austère, hein, parce que ça se termine en plus, c'est pas hyper positif. Oui, par contre, le dessin est juste magnifique, quoi.
Très joli dessin.
Mais justement, le dessin participe de l'émotion, même parce que l'histoire, c'est vrai qu'elle est très austère, comme tu dis, mais justement, le dessin, il est tellement...
Pourtant, je suis super sensible, hein, mais j'ai rien du tout.
Il y a de l'émotion qui sort.
Alors moi, non.
Elle a pas aimé mon ami Damer.
Mais oui, c'est ce que j'allais dire.
Oui, voilà. C'est vrai, oui.
Non, c'est pas que j'ai pas aimé mon ami Damer. J'ai trouvé ça pas mal, malsain. Mais je suis restée un peu à côté aussi, effectivement.
Quand je dis ça, c'est qu'en fait, c'est pour dire qu'en fait,
les sensibilités de chacun
sont vraiment là où on a été.
Bon, voilà, l'idée, c'est pas de refaire le débat, mais de dire que voilà, à vous de le découvrir, peut-être de vous faire votre avis et puis nous en faire part. C'est très très bien.
Les commentaires.
Et un petit retour sur les commentaires. Merci, Freddy. Donc, alors oui, d'abord, je voulais m'excuser auprès de Guilin. Alors, je sais pas si tu connais, toi, Freddy. J'avais l'impression que c'était quelqu'un que tu connaissais.
Guilin,
non?
Je connais pas quelqu'un qui nous fait un comme... prénom comme ça.
Donc, Guilin, si tu nous écoutes.
Oh, salut, Guilin, j'adore.
Donc, non, pour dire qu'ils nous avaient fait part de quelques commentaires dernièrement, et puis je les avais loupés, je les avais pas vus validés, donc du coup, ils étaient passés à la trappe, donc c'est rétabli. Donc, merci à toi pour ces quelques retours où ils nous font.
Dis-nous qui tu es.
Éloges, et puis n'hésite pas à nous dire comment tu nous as découvert, surtout, parce que c'est toujours sympa.
Il est breton, non?
Et d'ailleurs, je sais pas. Et d'ailleurs, une nouvelle auditrice.
Ah, Guilin, c'est breton.
Je sais pas. Non. Une nouvelle auditrice qui nous a.
Guilin.
Ah oui.
Je connaissais la bière, mais.
Ah la vache. Non, donc Guilin, oui, c'est Jean, là.
Bienvenue à Virginie, donc une nouvelle auditrice qui nous a découvert grâce à J.R. Frégin. Donc comme quoi cette personne nous est utile.
Quelle personne tu dis?
Virginie.
Ah. Non, c'est pas...
Ah là, c'est
non.
Pas...
Non, c'est pas...
Ah, c'est pas...
Voilà. Ah, c'est pas...
Donc,
c'est pas...
en tout cas, c'est plutôt sympa. Et on a eu, depuis le dernier épisode, on a eu des retours plutôt sympathiques qui prouvent que quand on prépare un petit peu, les épisodes se passent mieux. Donc on espère qu'on va être dans cette même veine, parce qu'on avait été un petit peu light pendant notre période de Noël. Oui, Christophe, tu me fais des gestes.
Oui, c'est parce que je voulais faire un retour sur une connerie que j'ai dit dans l'épisode précédent. C'était la sortie du tome 2 de Virginie Despentes, Vernon Subutex. Oui. J'avais dit qu'il sortirait en mars, et en fait, c'est en juin. Voilà, c'est tout.
Eh ben, écoute, merci pour cette précision.
Quel scandale.
Vraiment, tout putain, mais tu peux préparer tes dossiers un peu, non?
Bah ouais, bon, mais merci. Bon,
Quel con.
Et donc, merci à tous, ceux qui nous font des commentaires. On va pas citer tout le monde. Mais un petit coup d'œil particulier, un petit clin d'œil, pardon, particulier à Blast et à Monsieur Hobby, qui eux nous font quasiment un retour systématique. Donc pour nous dire quand ils aiment, mais aussi quand ils aiment pas, comme Monsieur Obi. Et visiblement, le dernier épisode lui replaît à nouveau, donc c'est qu'on a pu gommer nos petites erreurs. Et puis je vais lui faire un petit clin d'œil encore particulier à Monsieur Obi, puisqu'il s'est lancé dans un blog qui s'appelle donc... Attendez, parce que... Le blog dont je ne trouvais pas le nom, dont je ne trouvais pas de nom, et quand j'en avais un, j'avais plus de place pour le mettre... Donc voilà, c'est pas hyper simple. Je vous mettrai directement l'adresse du lien pour y aller.
On ira voir.
Et puis c'est son petit blog. Je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. C'est toujours sympa. Hein. Les blogueurs ont besoin de visibilité. Je suis bien passé pour le savoir.
Et de soutien, ouais, tout à fait.
Donc voilà. Et faites pas les timides. Vous pouvez mettre des étoiles sur iTunes. Hein. On a que 5 avis. Donc n'hésitez pas. Les avis.
Ton problème, c'est que tu lis pas les zéros après les chiffres. C'est ça qui est gênant.
Non, on a que 5 étoiles par contre. Tous les avis sont à 5 étoiles. Donc voilà.
C'est pas la
qualité
des avis. Il y a Christophe, il y a Ludo, il y a Marie. Bien,
la qualité. Qui est-ce qui a pas mis d'avis autour de la table? Parce qu'il y a que 5 étoiles. Il y a que 5 avis.
Sur iTunes, j'en mets pas parce que j'ai zappé iTunes.
Non, mais c'est pas grave. Voilà. Mais c'était pas très grave. En tout cas, merci à tous pour vos retours divers et variés. Ça nous aide à progresser. Puis c'est toujours intéressant de voir que. On fait les choses, puis que les gens y adhèrent ou pas, d'ailleurs. Et on va passer à la suite.
Salut la compagnie, ça va ?
Ça va ? Et donc, nous allons commencer par, tiens, Marius, qui a un sujet qui intrigue tout le monde.
Oui, ça c'est clair. Eh bien, donc moi je voudrais mettre à l'honneur... Oui,
j'ai... Je viens dire le conducteur.
C'est à moi de commencer alors. Donc moi je vais mettre à l'honneur une enseigne qui vient d'ouvrir ses portes à Elbeuf, car quand nous avons Rouen, la ville au 100 clochers, nous avons aussi Elbeuf, la ville au 100 restaurants kebab. Et donc, quand Claudine et Gérard Jean ont l'idée d'ouvrir une vraie pizzeria, et je ne pèse pas mes mots
c'est
quand je dis...
C'est des amis à toi ?
Vraie pizza. Non, ah,
on, si tu pèses tes mots justement.
On a testé donc... Ah ça commence, allez-y.
Non, vas-y.
Non, allez-y, il n'y a pas de problème.
Je vais être sûr, vas-y.
Donc je ne peux que leur faire qu'une gros, une pub énorme... par le biais de l'entrepôt qui fait et défait les carrières, ouvre et ferme les établissements.
C'est bizarre de où ?
Ouais. Car ici, les maîtres des lieux ont fait appel à deux transalpins. Angelo, qui s'occupe de la fabrication des pâtes et de leur cuisson, et Carmine de Napoli pour la préparation des pizzas. Il paraît même que ce dernier a remporté le championnat du monde de pizza freestyle.
Vous savez, en tournée.
Voilà, c'est ça, ça. Ouais.
C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Arrêtez !
On est mort de rire parce que t'as dit « et je ne pèse pas mes mots
». Ouais, mais j'improvise.
Vas-y, bon Marius, vas-y.
Non, c'est écrit.
Donc, tous les produits du restaurant sont importés d'Italie.
Du restaurant ? Ouais. T'as dit non ? Du restaurant.
Et en fait, moi qui est assez difficile
c'est
sur la qualité...
C'est parce que c'est un resto
italien.
Meilleur
doit vous me faire chier. Donc non, mais franchement, quand on a mangé là-bas, je suis assez difficile sur les pizzas. Vous connaissez, je suis un grand amateur de pizza. Et là, quand
toi, c'est la
arrivé,
reine, la Regina.
La reine, la Regina, la tout à fait normale, en fait. Jambon, olive,
champignons.
Fromage et champignons. Donc quand je l'ai vu arriver...
Des fois, tu changes un peu, moi. Non, tu prends toujours la Regina, en fait.
Tu prends pas des calzones.
Non, j'aime bien la Regina, en fait.
Et tu bois quoi avec
ta
Regina ?
En fait, la calzone, c'est une fermée. Hein.
Oui, c'est ça, c'est une fermée.
Moi, c'est une reine fermée.
Mais oui, c'est ça, en fait.
Je peux reprendre mon truc, non ?
Et des fois, tu prends une entrée avant ta pizza ou...
Oh non, jamais d'entrée.
Pizza direct, tu prends toujours en direct.
D'accord.
Toujours un petit peu de pinard, par contre.
Ah oui, bah oui. Et il te reste une place pour le dessert, après, quand même.
En fait, tu fais quoi ? Tu te venges ?
Non, mais ça m'intéresse beaucoup.
J'aime bien les desserts aussi dans les pizzas, donc je suis où ? Je sais que j'en suis, où c'est que j'en suis ?
Donc pizza volante, la frite.
Donc voilà, donc je l'ai vu arriver devant moi, cette fameuse pizza, parce que franchement, on est rentré là-bas avec un... Je vais le faire sans regarder ton truc, parce que de toute façon, quand je lis, vous me faites chier, vous m'emmerdez. Donc quand on s'est assis, donc j'avais un... Comment on dit J'avais un a priori, en fait, encore un a priori là-dessus, et étant à Elbeuf, je suis désolé de dénigrer Elbeuf, mais franchement, Elbeuf, c'est la ville du kebab, il n'y a pas d'autres mots. Et donc là, quand on m'a dit vraie pizzeria, j'ai été étonné. Quand j'ai vu arriver la pizza, c'est vrai que c'était une pizza qui était belle, qui était généreuse, qui faisait réellement envie, avec une pâte qui était savoureuse.
Des produits sublimés.
T'as pris une pizza salade tomate oignon ou pas?
Sauce blanche ou harissa?
Avec les frites à part ou...
Et donc, ce qui est bien dans ce restaurant, en fait, c'est que ça s'arrête pas là. C'est que même la carte des desserts, elle est simplement énorme.
Tiramisu?
Oui, maison, vraiment. Il y a une tiramisu pizza, enfin, attaquez-moi.
Tiramisu pizza.
Il t'attaque pas.
Non, mais il y a un réel.
Avec du parmigiano reggiano.
Vraie carte des desserts qui sont faits maison.
Ah ouais.
Moi, j'ai mangé certainement les meilleurs profiteroles de ma vie, donc qui n'étaient pas boule de glace vanille et puis coulis de chocolat et puis chou de merde. Ouais. Là, c'était réellement.
C'était coulis de tomate et.
Non. Là, c'était un chou accompagné de glace à la. Fruit de la passion et puis un vrai coulis de figues.
C'est pas des profiteroles.
Oui, mais si, c'était fait façon non très.
Attends, tu regardes sur le chef, ils revisitent tous les trucs, tu peux pas dire que c'est pas des profiteroles.
Profiteroles revisitées.
Carte des pizzas.
Ouais, mais digne d'un très grand restaurant. Très sincèrement, je fais le truc là.
Vas-y.
Je sais pas s'ils vont m'écouter, si on peut avoir une réduction donc sur le prochain.
Genre 20% sur l'addition.
On vient chez vous, on mange,
oui,
on mange tout
même,
le monde ensemble parce que je veux que tout le monde.
D'accord. Sinon, tu veux que l'entrepôt soit invité?
Non, pas invité.
C'est ce que tu dis,
Gérard. On va faire une petite participation. Et on peut.
Tu veux qu'on y aille?
Non, mais on peut.
On y aille ensemble.
Non, mais qu'on aille.
Que j'aimerais bien avoir d'autres avis.
Un test en live, en
nature.
Avec grand plaisir.
Je vais réellement demander.
Bah écoute, on va
faire.
Et puis parce que moi j'ai trouvé ça d'enfer.
Le mec il va le voir arriver, les mecs ils veulent bouffer à l'œil.
J'avais bien senti qu'il avait du sang manouche.
Non, mais même si on paye tout, très sincèrement, les desserts c'est digne d'une très grande carte.
En tout cas, tu le vends bien.
Très.
Comment s'appelle le restaurant, rappelle ?
La Piazza.
La Piazza à Elbeuf.
Et donc franchement, c'est un bel établissement, c'est bon.
Ah, nous deux, donc on s'en est tiré pour 43 € pizza, dessert et puis
et du pinard quand même.
Oui. Donc ce qui est pas,
c'est pas cher, non,
je trouve pas encore que ce soit énorme en mangeant le soir. Et donc voilà, je voulais refaire un petit coup de pub. Donc c'est à refaire. C'est Place Les Caliers à Elbeuf. C'est ouvert du mardi midi au dimanche midi. Et je recommande plus.
Bah, bon, on ira ensemble.
Oui. Alors, dans le temps, à Elbeuf, il y avait une pizzeria qui s'appelait Vito. C'était excellent également, mais elle a fermé.
Corleone. Il est mort.
Vito Corleone.
Elle a fermé il y a au moins une dizaine d'années, donc il y avait vraiment un gros manque d'une réelle pizzeria. Donc maintenant, ce manque est comblé.
Bah
merci.
Je leur souhaite longue vie.
Merci de ce retour.
À l'avenir, tu pèseras tes mots.
Voilà. Là, il les a pas pesés.
Eh bien, qui est-ce qui prend
la... Pizzeria, tes mots.
Tiens, je vais passer la parole à Starlette. Est-ce que tu es prête, Starlette?
Oui.
Starlette Johansson.
Starlette O'Hara.
Vas-y, Starlette.
Alors, je voulais vous parler de la série Better Call Saul, qui est une série diffusée sur Netflix. Le 10e et dernier épisode de la première saison a été diffusé la semaine dernière. Donc, Better Call Saul, c'est le spin-off de la formidable série Breaking Bad. Saul Goodman, interprété par Bob Odenkirk, on dit comme ça ?
Oui.
Odenkirk est donc à l'honneur dans cette série. Marius, tu confirmes ?
Oui, c'est bon.
Donc bon, je dis Saul Goodman, mais en fait, ceci n'est qu'un nom d'emprunt, une identité secondaire pour James McGill, ancienne petite frappe devenue avocat par correspondance dans le but de voir de la fierté dans le regard de son grand frère qui l'a sorti de prison. L'histoire débute en 2002, soit 7 ans avant l'événement de Breaking Bad, et il semble qu'elle est censée se terminer après. Du moins, c'est ce que laisse supposer la première scène du premier épisode dans laquelle on voit Saul Goodman, James McGill, en gérant de fast-food, terrorisé par la moindre personne suspecte à ses yeux et qui se repasse en boucle le soir les enregistrements de sa période faste d'avocat. La série fait quand même appel à certains protagonistes de Breaking Bad de manière plus ou moins ponctuelle et appuyée. Et on a envie de savoir en fait comment ces personnes vont ensuite finir par graviter autour de Saul Goodman, alors qu'a priori Jimmy McGill avait plutôt tendance à les faire fuir ou à les irriter. Tu comprends plus rien, toi?
Non, j'ai déjà perdu, j'ai décroché, moi. Ça y est, j'ai déjà décroché.
C'est parce que tu connais, t'as pas suivi Breaking Bad.
Ah bah non.
Donc dès le générique en fait de la série, moi je sais que j'ai carrément accroché. Le générique, les cadrages, on est replongé directement dans l'univers de Breaking Bad. Les couleurs aussi, le traitement de la, c'est très saturé. Les cadrages, ils sont formidables quand même.
Ça se passe à Albuquerque aussi.
Au même endroit, oui.
En grande partie, parce qu'au final, ils arrivent à Albuquerque, mais ils viennent tous d'horizons un peu différents. Mais enfin, je laisse Delphine.
Non, mais enfin voilà, c'est vraiment super chouette. Toute la première saison concerne donc la longue transformation de Jimmy McGill, petit avocat sans succès. Sans le sou, plein de bonne volonté, dévoué à son frère qui, lui, est avocat renommé mais malade imaginaire. Et donc, c'est la transformation de Jimmy McGill en celui qui deviendra Saul Goodman, l'avocat sans scrupules que l'on connaît pour ceux qui ont suivi Breaking Bad, prêt à tous les coups tordus qu'on connaît. Donc, je pense que Nico, tu vas vouloir peut-être rebondir sur le sujet.
Pas forcément, enfin, t'as déjà. Je le connais.
Pompé tout ton billet.
Non, vous mais
non, moi, j'ai pas tout pris, t'en reste. Hein.
J'ai trouvé vraiment cette série. Autant c'est vrai que quand elle était sortie, j'avais un peu des a priori parce que ou même des doutes certains puisque la série Breaking Bad étant tellement bien menée du début à la fin qu'on se dit quel intérêt d'user jusqu'à la corde quelque chose qui a bien fonctionné alors que justement il y avait vraiment plus de besoin. Et en fait, le premier épisode, il pose un petit peu l'ambiance. Comme disait Delphine, dès le début, on n'est pas dépaysé, on retrouve des choses qui nous appellent. Par contre, l'histoire, elle, fait complètement fi de.
Beaucoup plus léger quand même.
À aucun moment, c'est plus léger, mais c'est pas non plus. Pendant un moment, on parlait d'une série humoristique. On n'est quand même pas dans l'humoristique. Hein. C'est qu'il y a quand même des trucs un peu lourds. Mais par contre, à aucun moment, on se dit ah tiens, il manque Walter White quoi. Parce que la série, elle se suffit elle-même, elle a sa propre identité. Et puis on est pris dans le truc et vraiment les acteurs, enfin Bob Odenkirk, il est extraordinaire. Formidable. Enfin vraiment, on
retrouve Mike aussi.
On s'attache à lui. On trouve que c'est un gros enfoiré de temps en temps. On a de la peine pour lui. Il y a vraiment tout. Et puis Mike, l'acteur, il a un charisme. Il dépasse l'écran. Enfin ce mec-là, c'est je sais plus Mike et son acteur, c'est Jonathan Banks, qui est terrible. Enfin vraiment la série se vraiment se justifie son existence. Il y a pas de donc là, j'ai envie de voir la suite en fait.
Je vais rien dévoiler d'extraordinaire, mais donc dès la première saison, Mike et donc Herman Trott et Saul Goodman se rencontrent déjà. Mais ils n'ont pas encore vraiment à faire ensemble. Et on se demande comment ça va se passer, en fait.
Parce qu'ils sont presque pas à se taper dessus. Mais
ils se supportent pas.
C'est vraiment pas le duo qu'on peut connaître dans Breaking Bad. Et justement, ça a cet intérêt. Et ça donne de la profondeur à la série, finalement, Breaking Bad initiale. En donnant un espèce de background plus... Ouais. Comme on dirait dans Star Wars, l'univers étendu. C'est-à-dire tout ce qui va au-delà de la série initiale. Et qui apporte... je trouve qu'elle a vraiment tout son sens et... Vivement la suite, quoi.
C'est très ouais. curieux, moi, en tout cas, de la regarder.
C'est vraiment chouette. Ouais,
donc, elle est disponible.
Ça donne envie, ouais.
Elle est disponible sur Netflix. Pour ceux qui
sur ton ordi, elle est disponible.
Pour les... Bah non, on a Netflix. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Vous pouvez la trouver certainement par des moyens que vous voulez.
Il y allait.
Mais.
Il y allait récupérer cette semaine.
Ah ouais. Bah écoute, elle est. Non, vraiment très bien.
Il y avait bien.
Et il était entendu.
Par contre, c'est
mignon.
C'est une série. C'est aussi une série AMC. Donc, comme était Breaking Bad. Et c'est les mêmes producteurs et réalisateurs que la première. Que Breaking Bad. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve Vince Gilligan qui est dans l'histoire. Alors, je sais pas s'il
a
tout fait.
Il a un talent monstrueux, franchement.
Je sais pas s'il a tout fait, mais vraiment. Enfin. Vraiment, et on retrouve comme Breaking Bad des épisodes un petit peu hors cadre, mais qui servent à l'histoire.
D'accord.
Donc voilà, on va pas s'éterniser plus, on vous laissera vous faire votre avis, mais peut-être Freddy nous fera un retour lors du prochain entrepod.
Combien de regarder.
Je sais que t'avais beaucoup aimé Breaking Bad, il me semble.
Oui, oui, oui.
Donc, à suivre, nous verrons bien. Eh ben, tiens, Freddy.
Oui.
Je crois que tu avais un petit sujet à nous faire.
Oui, un sujet musical. Alors, moi, je vais vous parler d'un groupe, d'un super groupe même, qui s'appelle Husbands. Alors, je dis super groupe parce que on a un trio, là, et c'est des musiciens qui viennent eux-mêmes d'un groupe, qu'on appelle super groupe, le fait qu'ils se retrouvent entre eux. Le super groupe s'appelle donc Husbands, je l'ai dit. On y trouve là la crème de la scène marseillaise. C'est pas une scène qu'on on est habitué à entendre. On se souvient tous de IAM ou des groupes plutôt rap. Là, c'est une scène électro-pop qui est vraiment émergente et très talentueuse. On a donc Nasser, on a Hot Tiger Mountain et Kit Francescoli, dont j'ai déjà parlé à ce micro. Et effectivement, quand j'ai entendu tout de suite, je me suis dit, putain, ça me rappelle vraiment un truc que j'aime. Et c'est ça, en fait, c'est la petite touche de Kit Francescoli. Donc, un super groupe américain, je le dis, ils sortent leur album, ils ont
américain.
Sorti leur...
Américain ?
Non, j'ai écrit américain, donc je dis américain, mais ça n'a rien à voir. Un groupe marseillais que j'adore. L'album est sorti il y a quelques semaines. Il s'appelle lui aussi Husbands. Et les Américains l'adorent. C'est pour ça que je disais américain. Ah, okay. J'avais noté américain. Et notamment leur clip. Je sais pas si vous avez l'occasion de voir. Il y a le clip de Dream qu'on entend maintenant, qui est une succession d'éléments graphiques qui est vraiment toute simple, mais vraiment super bien réalisé. Tout comme celui de You, Me, Cell Phones, le titre qu'on a entendu juste avant.
Mais je l'ai vu par contre.
Tu l'as vu, c'est tourné dans une piscine marseillaise. Oui. Alors moi, pour la petite histoire, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce groupe là? Ça sonne australien, ça sonne, je sais pas, Midnight Juggernaut.
Ça fait pas tout de suite marseillais, hein, effectivement. Ah, quand
complètement
tu dis marseillais,
pas, ouais.
Ça
ouais,
fait,
ouais.
Enfin, même si j'ai pas de préjugés sur les marseillais, mais tu penses plus que ça a un côté anglo-saxon.
Ah oui, moi c'était une vraie surprise de voir que c'était des Français qui étaient derrière tout ça, quoi. Et ce clip là de You, Me, Cell Phones, qui est tourné dans une piscine marseillaise, qui est très très bien réalisé, avec des plans magnifiques, avec des nageuses qui font de la natation synchronisée, qui est très bien foutu. Et là,
tu parles des nageuses ou
ouais, je t'ai pas suivi là.
Le clip est très bien foutu, mais les nageuses sont mimi, hein, on est d'accord. Donc voilà, c'est dans l'actu, mais c'est aussi un gros coup de cœur parce que je trouve qu'il y a beaucoup de talent là derrière. Il y a beaucoup de travail, d'écriture, de machines, de vidéos. Enfin, c'est pour moi des artistes très complets. Voilà, je le dis encore, il n'y a peut-être pas besoin de faire leur pub, mais.
Non, mais au moins,
on en parle
sans faire la pub.
Ça mérite vraiment.
Il y a au moins une personne à cette table qui ne connaissait pas, donc.
Il y en a deux avec moi, parce que tu vois, je découvre.
Donc tu vois, c'est.
Pour moi, enfin, on va danser là-dessus tout l'été. Là. Les titres sont faits pour ça, il y en a plusieurs qui cartonnent sur l'album. Mais,
Donc tu rappelles.
Ça s'appelle Husband.
Ou The Husband, non, Husband, tout court.
Husband.
Et l'album.
Et ça fait référence à un film de John Cassavetes. Qui s'appelle
Husband.
Waouh, quelle originalité. Non mais écoute, merci pour la découverte, ah oui, parce qu'effectivement connaissez pas.
J'ai écouté parce que
écoutez et regardez les clips, c'est très très bien.
Vous l'aurez sur la playlist de Spotify puisque ces deux titres là, donc You Me Cellphone et Dream sont sur
entre
la
autres,
playlist.
Entre autres,
ouais. Et puis, bah, après vous seriez curieux et puis vous aurez écouté le reste.
Ouais.
Mais allez écouter aussi chacun dans son coin, là, Keith Francescoli, Hot Tiger Mountain et Nasser, qui sont vraiment des artistes émergents à découvrir. Ouais.
Merci Freddy. On va rester dans la musique avec Christophe.
Oui.
Christophe, toi, tu voulais nous parler d'un artiste français également.
Oui, moi j'aime la chanson française, monsieur.
Française.
En ce jour donc de la Saint-Parfait, aujourd'hui, j'ai souhaité vous parler du grand, du très grand Dominique A, au sens propre comme au sens figuré.
Je connais pas.
Il est marseillais,
non ? En effet, ce grand bonhomme a une actualité très riche ces derniers temps. Donc il vient de sortir son 10e album, Eleor, celui qu'on entend actuellement. En mars dernier, il prépare une très longue tournée qui va s'étaler du 18 avril au 11 juillet. Il va se faire quasiment toutes les villes de France, dont Rouen, le 12 mai.
Donc tu y vas ?
Et j'en serai, forcément.
C'est pas complet encore.
C'est pas complet, c'est mais je
ça
m'en fous.
Ça saurait tarder.
Mais j'ai déjà mes places, donc...
Tes places, parce que tu y vas à plusieurs.
J'y vais à plusieurs.
Ah, il aime bien être à l'aise.
Ouais. J'y vais avec moi et puis moi.
D'accord.
Donc, ouais, je suis un peu schizophrène.
Il y a un égo, ce mec.
Non, on est deux dans ma tête.
Ah, d'accord.
Donc, il faut de la place pour... Et donc, enfin, il publie aussi un livre qui s'appelle « Regarder l'océan », qui est sorti il y a 3 jours. Et que je n'ai pas, évidemment, eu le temps de lire. Mais ce sera sans doute l'objet de... C'est un prochain entrepode. Donc ce 10e album est une véritable invitation au voyage, comme un appel du large. Car le titre de cet album, pardon, en est l'illustration parfaite, car Eleor est ni plus ni moins qu'un caillou posé au milieu d'un fjord danois qui s'appelle l'île d'Eleor.
D'accord.
Et donc cette évocation des grands espaces se retrouve quasiment sur tous les titres, par le Canada, mais aussi Central Otago, qui est une région de la Nouvelle-Zélande. Le cap Farewell, qui se situe au Groenland, Semana Santa, qui est en Espagne, Oklahoma, comme tout le monde sait, Oklahoma 1932 est en Belgique, et évidemment avec le titre L'Océan. Comme un conteur revenant de voyage, ces textes sont souvent narratifs ou descriptifs, avec l'évocation sereine des rêves passés, notamment sur Une autre vie, le titre que vous entendez. Non, pardon, c'est l'autre.
C'est l'autre, c'est celui-là.
Ou bien encore l'envie avouée de contact sur Passer nous voir. Parfois, ces textes sont plus mystérieux, on ne se refait pas, notamment sur le titre « Celle qui ne me quittera jamais », le
c'est
titre qui passe, cette fois-ci j'ai bon. Et tantôt plus poétique sur le titre « L'océan ». Donc, pour moi, Dominique a une vraie griffe littéraire, une espèce de spleen sobre et évocateur un peu à la façon Rimbaud. C'est peut-être osé, mais c'est ce que je pense. Il ose chanter des élans d'amour, et ce avec simplicité et sans mièvrerie. Ainsi, sur le titre qui passe un peu partout, notamment sur France Inter, Au revoir mon amour, la promesse se mêle à la douleur, et comme une lettre, cette chanson s'adresse à une inconnue en qui s'incarnerait l'espoir de lendemains idylliques. Des 12 morceaux...
C'est toi qui écris ces chansons, non ?
Ouais, je pourrais.
Vous n'êtes pas de la même famille parce qu'il y a un petit air de ressemblance.
Tu m'as cassé ma chute.
Merde.
Parce que nous avons le même âge.
Et le même coiffeur.
Exactement. Bon, dommage, c'est raté quoi.
Non, mais Nico va couper. Fais comme si j'avais rien dit.
Ouais, mais avec la musique derrière, c'est dur à couper.
Non, on va laisser.
Tant pis.
Donc des 12 morceaux qui composent son album se dégage un sentiment de cohérence et d'apaisement, un pont entre un esprit rock et une filiation de chansons. Cette voix vibrante mais posée est portée par des mélodies raffinées et des arrangements classiques qui sur cet album sont composés de violons et de violoncelles. Il a d'ailleurs dernièrement donné un magnifique concert dans le grand auditorium de Radio France, diffusé sur arte.tv, où il était accompagné de l'Orchestre National de France. C'était juste énorme. Je ne sais pas si certains d'entre
c'est
vous l'ont regardé.
C'est celui qui a été rediffusé via Culture Box, ou je ne sais pas, que je t'ai envoyé le lien l'autre jour, c'est pas ça ?
Arte.tv.
Sur Arte.tv, je ne sais plus, mais
donc
j'ai vu
il était
passer.
Rediffusé...
Ouais, il est disponible en ligne quelque part.
Sur plusieurs jours encore. Et donc, pour moi, cet album est l'une de ses meilleures productions. Certes, j'ai un parti pris parce que c'est quelqu'un que je suis depuis ses débuts. Je ne sais pas si vous connaissiez...
Beaucoup le pensent.
Si vous connaissiez le 22 Bar.
Ah bah, c'était sa premier gros succès, en fait.
Premier gros succès, tout à fait.
Ville de lumière, et, etc.
Non, ça, c'est Gold.
C'est pas ça, non ? Il a pas fait des mondes minuit après, non ?
Et donc, oui, donc je disais que
ça
c'était.
Fait rire les oiseaux.
C'était avant l'été indien. J'ai beaucoup aimé celle-là.
C'est un de ses meilleurs albums. Et donc voilà, si vous avez envie de le voir sur scène, n'hésitez pas.
Donc il passe à Rouen le 12 mai.
Mais il passe partout. Vous allez sur son site, il y a une putain de chier de date. Je sais pas, il fait 50 dates au moins. Donc ça m'étonnerait qu'il oublie.
Si vous venez voir à Rouen, vous verrez en même temps Christophe, quoi. Et son autre lui. Voilà.
Exactement.
Et ça, c'est pas rien.
C'est le seul qui aura un siège vide à côté de lui.
Voilà, c'est ça. Vous aurez la doublure de Dominique A dans le public.
Ouais.
C'est pas rien.
Au moins, de dos, on peut les confondre, ça, c'est sûr.
Je crois qu'il est plus grand que moi.
Ah bon ?
Je suis pas sûr en même temps. Je verrai le 12 mai. Ben,
écoute, merci. En tout cas, on sent que tu. C'est avec émotion que tu as.
Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'adore. Je trouve que c'est un vrai poète.
Mais toi aussi, tu l'es quand tu écris des choses comme ça.
Merci, Marius.
Eh bien, tiens, Ludo, tu as une rubrique, quelque chose d'un peu particulier à nous proposer.
Oui, tiens, puisque tu dis rien.
Allez, vas-y. Voilà, sois fou.
En fait, tout est parti de l'absence de Didouille. Didouille étant absente, sa rubrique « Je vais mourir moins bête ce soir » ou « Comment ne pas mourir moins bête » ou je sais plus, enfin un truc comme ça.
S'endormir moins bête.
S'endormir moins bête, hein, comment s'endormir moins bête le soir, elle nous manque beaucoup. Donc j'ai décidé, en hommage à Didouille, de mixer ma rubrique qui était plutôt une espèce de brève un peu pourrie avec sa rubrique qui était d'une...
Qui était aussi un peu... Ah non.
et donc j'ai appelé ça le « Didouloulou ». Et donc,
ou comment se lever plus con.
Eh bien écoute, c'est pas bête. Donc attention, maestro musique. Donc je vais commencer. Je vous propose en trois parties
maestro
cette rubrique.
Musique.
Non, il n'y a pas de musique.
Il est parti.
C'était une blague, il n'y a pas de musique du tout. Donc mon exposé se déroulera en trois temps. Je vais commencer par un problème logique. Est-ce que vous
de mathématiques,
êtes prêts de mathématiques appliquées ? Je vous pose le problème. Voici, vous êtes au volant d'une voiture. Vous roulez à vitesse
modérée.
Constante.
Et pourquoi tu prends la voix de Jean-Claude Gaudin pour...
À votre droite, le vide. À votre gauche, un camion de pompiers qui roule à la même vitesse et dans la même direction que vous. Devant vous, un cheval qui galope. Derrière vous,
sur une route,
un hélicoptère qui vous suit. Un rase-moite. Précision, le cheval et l'hélicoptère avancent à la même vitesse que vous. Ma question que je vous pose, comment faites-vous pour vous sortir de cette situation ? Compliqué, je vous l'accorde.
J'ai trouvé. Je descends du manège.
Tu descends du manège !
Oh putain ! Oh yeah, yeah.
Oh putain !
Deuxième acte de mon intervention.
Ah, on est quand même passé à l'accent russe, je sais pas si c'est une autre.
La papaye est un fruit issu du papayer.
Ma fille de 5 ans,
elle nous l'a fait.
Tu ne me casses pas.
Mais tout le monde la connaît.
C'est quand même pas la
blague préférée. Si, je suis sûre.
Et quand t'as 3 poussins. Continue, fais comme si on n'était pas là.
Eh bien, effectivement. La papaye, arbre originaire, donc issu du papayer, arbre originaire du Mexique, production mondiale de 12,4 millions de tonnes en 2012.
T'as raison, faut remettre dans le contexte.
Avec l'Inde comme important producteur, 5,2 millions de tonnes, suivi du Brésil, 1,5 million de tonnes, et de l'Indonésie, 900 000 tonnes.
Qui va oser répondre ?
Mais savez-vous comment ?
Savez-vous ?
Les papayes sont récoltées dans ces... Ces papayes sont effectivement récoltées à la foufou.
Bravo.
J'ai rien compris, moi. Rien compris à votre truc, là. Mais j'ai rien calqué.
Comment c'est récolter les papayes ? Elles sont récoltées à la foufou. Ah. Ok.
Ah, d'accord. Ah.
Si je poursuis, je vais être un peu
lourd. Bien, vas-y.
Troisième et dernier acte de mon intervention. Pourquoi les flamants roses sont-ils roses ?
Parce qu'ils mangent des crevettes.
Oui, tout à fait. Maintenant, il n'y a pas quelque chose qui te gêne là-dedans.
Bah, les crevettes.
Elles sont roses quand elles sont cuites.
Les crevettes sont roses quand elles sont cuites.
Oui.
Alors pourquoi tu me dis que les flamants sont roses parce qu'ils mangent des crevettes?
Mais parce que c'est vrai, je sais pas, peut-être que, ça, roses, peut-être que l'heure de le gosier cuit les crevettes.
Les flamants naissent gris à la naissance et deviennent roses au fil des années qui passent. Les molécules qui teintent les flamants sont issues de la famille des
caroténoïdes.
Caroténoïdes. Et ça s'appelle l'astaxanthine. Les flamants puisent donc cette substance dans leur alimentation, des algues, des graines, des crustacés. Et surtout, Artemia salina, une crevette bourrée d'astaxanthine. Ils sont roses
son accent,
parce qu'ils bouffent des crevettes.
Mais c'est quoi merci surtout sa rubrique là.
C'est la rubrique pour se lever plus con.
Et là, je peux avoir un point ou pas?
Mais les crevettes sont roses uniquement quand elles sont cuites.
Oui.
Et un flamant rose cuit, ça devient quelle couleur? Alors,
gris.
Quelle est l'explication? Va-t-on le chat? Eh bien, tout simplement, parce que l'astaxanthine présente dans les crevettes, c'est marrant, je change d'accent, est encapsulée dans une protéine. Ah là, bah non, c'est l'allemand. Et l'astaxanthine est présente dans les crevettes qui sont vivantes, malgré tout. Et quand les crevettes sont crues, eh bien, en fait, la protéine libère l'astaxanthine au moment de la cuisson. Et hop, ça rosit.
Et hop.
Merci pour le stergeist. Bon,
la prochaine fois qu'il y a écrit Didou Lulu sur le conducteur, on zappe.
Hey, faut qu'on le voie quand même pour que Didou soit toujours là. C'est important. C'est
non, ou que aucun des deux ne soit là.
Sinon, savez-vous comment le lait il est blanc?
Non. Vas-y.
Et bien.
Et bien.
Eh bien, invité privilégié du petit-déj. Le lait, c'est bon pour vous, avec tout le calcium qui te fait bon dans les os. Mais savez-vous pourquoi le lait blanc? Tout simplement parce que c'est la dispersion de la lumière sur les microglobules graisseux contenus dans le lait qui lui donne cette couleur. Plus le lait est riche en matières grasses, plus il sera blanc.
Merci.
Bonne soirée, les amis.
Merci, tonton Lulu.
De rien.
Bah écoute.
Bon, ben vas-y, enchaîne.
Didouille, reviens, Didouille.
Comment il avait dit, Marius? La nuit porte conseil, c'est vrai. Tu devrais te contenter de choses comme ça en fait. Pas chercher l'explication derrière. Tu restes sur. Voilà, comme ça. Des insinuations. Et ben donc, moi je vais aborder avec vous un sujet que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Donc, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle e-pensée. Donc, e-pensée plus loin. Donc, e-pensée, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique qui est donc disponible sur YouTube, comme je disais, qui est réalisée et présentée par Bruce Benamran, je ne sais pas, j'espère ne pas écorcher son nom, qui est ingénieur logiciel de son état, et sur laquelle il aborde en quelques minutes des sujets tels que les mathématiques, la biologie, la physique ou la chimie à raison d'une vidéo tous les 15 jours. C'est un peu ce que vient de nous faire Lulu, finalement.
Tout ce que j'adorais à l'école, dis-donc.
Oui, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait sous forme ludique, et c'est très, très, très bien fait. Donc depuis 2013, date de création, il a produit une cinquantaine de vidéos, abordant donc de manière ludique des sujets a priori austères comme l'effet Venturi, la relativité générale, la relativité restreinte, la théorie des cordes, mais aussi pourquoi les files d'attente.
Pourquoi les files d'attente?
Pourquoi bâiller est contagieux et surtout, pourquoi la gueule de bois? Voilà, donc on retrouve...
Ça, je veux bien savoir.
On retrouve sur des vidéos de une dizaine ou une quinzaine de minutes des explications qui sont alors sur la forme c'est un format qui est assez répandu sur YouTube. Donc l'animateur anime Bruce enregistre dans son appart face caméra, il échange avec son double qui lui sert aussi de miroir dans un jeu de questions-réponses, l'un étant le candide et l'autre étant le sachant. Et par contre, il illustre ses vidéos avec des schémas animés, plutôt bien foutus. Lui, il a l'air sympathique, il aborde les sujets de façon très simple. En gros, c'est très plaisant à regarder et très instructif, car bien vulgarisé tout en restant sérieux. Et sa devise, à la fin de chaque émission, c'est « Restez curieux et prenez le temps d'y penser ».
C'est beau.
Voilà, et c'est vraiment très sympa, j'ai découvert
c'est
ça récemment. Ah oui, non, franchement... le coup de l'effet Venturi pour expliquer pourquoi les avions volent, des choses comme ça. Comment les pompes à essence savent que t'as fait le plein, des choses comme ça. Toutes ces petites choses-là. Et c'est expliqué sous forme de schéma. Les files d'attente, même, c'est tout bête, qui explique pourquoi
les bouchons,
y a des ralentissements.
Les bouchons dans les circulations.
Exactement, il explique ça.
Ah, c'est intéressant.
C'est les files d'attente. Pour comment se fait-ce que sur un trajet où il n'y a pas d'accident, ça ralentit à un moment donné parce qu'il suffit qu'à un moment il y ait quelqu'un qui change de fil. Enfin, voilà, tout est fait à base de schémas, etc. Et c'est hyper instructif. Le mec est vachement sympa.
Ça a l'air super intéressant.
Il a à peu près notre âge. Il doit avoir entre, enfin, à peu près notre âge. À peu près mon âge. Il doit avoir entre 35 et 40 ans. Il a plus beaucoup de cheveux par contre. Donc, je vais te rassurer.
Non, vraiment. Combien de temps, les petites...
C'est entre 10 et 15 minutes à peu près. Donc, je mettrai le lien de la chaîne YouTube, moi je m'y suis abonné et puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, j'ai plaisir à regarder ça. Depuis, j'ai découvert ça il y a 3 semaines, 1 mois, et il participe à d'autres podcasts, etc. Il a été interviewé dans Podcast Science, etc. Et c'est vraiment un mec qui a l'air sympa. Et j'ai vu hier, il a été, a priori, il vient de faire une conférence TED. Je sais pas si vous connaissez les conférences TED.
Moi j'aimerais bien y aller.
Et une qui a été faite en Suisse, donc c'est les conférences un petit peu, c'est un peu un style université populaire où chacun a un temps limité pour présenter un sujet. Et là, il en a fait une a priori en Suisse, je l'ai vu passer sur le compte hier, je crois. Donc ça devrait être bientôt en ligne et ça doit être
sur un de ces sujets, parce que souvent c'est en anglais. Enfin, j'en ai vu quelques-uns en anglais.
Non, il y en a quelques-unes en français, mais c'est. Donc voilà, je vous invite à y jeter un coup d'œil et puis peut-être à faire part de vos retours. Peut-être que pour des gens très très pointus dans certains domaines, c'est peut-être on effleure évidemment les sujets, mais pour le commun des mortels dont je fais partie, notamment moi le premier que j'ai regardé, c'est l'effet Venturi, et il m'a tout de suite scotché parce qu'il a un côté hyper geek en plus, toujours avec ses trucs, ses t-shirts Superman, ses figurines de machin à tout, et du coup il y a un côté proche qui fait que c'est pas austère comme suivre une conférence qu'on peut avoir sur les universités ou les choses comme ça. Voilà, c'était le sujet principal que je voulais aborder. Je voulais juste aborder juste vite fait aujourd'hui, c'est le Disquaire Day.
Oui,
je sais pas si Freddy, toi tu en as. Je sais que t'es assez fan des vinyles, donc je sais pas si t'as eu l'occasion d'aller jeter un petit coup d'œil.
Alors non, car je suis sans le sou, malheureusement, ces temps-ci. mais peut-être l'occasion de préciser qu'il y a dans cette édition 2015 une réédition du groupe Dogs, le groupe rouennais mythique des années 80. Début 80.
Dont Marius avait fait une expo photo il y a quelques temps d'ailleurs.
Bah, j'ai fait le dernier concert, j'ai couvert le dernier concert des Dogs en photo en 2002, je crois.
D'accord.
Et donc, juste avant la mort de Dominique. Allez, tu peux poursuivre maintenant.
Merci, j'attendais ton autorisation. Il y a notamment Too Much Class for the Neighborhood qui est sorti en réédition à l'occasion de ce Discard Day 2015.
Donc le Discardé, pour info, c'est donc un événement d'une journée dédié principalement au vinyle, avec des conférences, des expos un peu partout en France, 200 disquaires dans 90 villes.
Et surtout des rééditions.
Voilà, des inédits de vinyle. Donc pour tous les fans, dont je ne fais pas forcément partie, mais de vinyle, c'est le jour pour aller chez votre disquaire, visiblement, d'aller faire un petit tour dans les bacs.
Mais allez-y tous les jours.
Et après, vous vous retrouvez comme Freddy, sans le sou, parce que vous demandez dans les bacs des disquaires. Et puis, moi, je voulais juste faire un petit clin d'œil à un truc très récent qui date d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. Donc, c'est la bande-annonce, le trailer, le deuxième trailer de Star Wars qui est sorti avant-hier et qui donne pour l'épisode 7. Vous avez plus de son derrière.
Ah, vas-y, on l'entend, nous. Hein.
Vous entendez ou pas?
C'est les casques.
Au fond.
Mais c'est
c'est pas Louise. Hein.
Et donc juste un petit clin d'œil pour cette chose. Je ne sais pas si parmi vous autour de la table, s'il y a des fans de Star Wars déjà, moi j'en fais partie.
Forcément.
Mais le trailer qui est sorti hier était vraiment terrible et autant le premier m'avait pas forcément retourné.
Excusez-moi.
Celui d'hier était assez impressionnant.
Pardon. Voilà. Pour un manouche, c'est quoi un trailer?
Un trailer, c'est comme un teaser.
C'est
quelque chose qui te met l'eau à la bouche, en fait. C'est pas encore une bande-annonce. Enfin, quoi que c'est quasiment une bande-annonce.
Le trailer, c'est la bande-annonce. Le teaser,
c'est ça. Voilà, pardon.
Qu'est-ce qu'on a
fait? Et juste pour, comme je t'ai précisé sur Facebook, moi, c'est exactement ce que j'aurais voulu voir.
En 2001.
En 99.
99, pour l'épisode
Fantôme. Quand j'attendais ils sont arrivés avec la première trilogie, quand George Lucas est arrivé avec sa première trilogie, c'était ça que je voulais voir.
Ah bah
J'ai
suivi un peu en pointillé la conférence qui présentait tout ça et c'était un peu la folie, quoi.
On va voir ce que vaut le film, mais franchement, je pense que là, ils ont vraiment touché très très juste. Je crois qu'ils ne pouvaient pas faire mieux.
Le film sort en décembre 2015, le 16 décembre, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je sais pas si c'est une sortie mondiale ou si c'est,
oh bah,
une sortie,
à mon avis, pense, c'est mais maintenant,
non,
maintenant,
certainement l'occasion d'en parler.
Oui, oui, non, mais c'est voilà, c'est vrai que c'était pour faire suite un petit peu au comme buzz qu'il y a depuis pas. Deux jours. Oui, je pense que ça, ça a été un peu abordé depuis deux, trois jours, mais voilà, moi, ça m'a vraiment donné, redonné de l'envie après la deuxième trilogie qui m'avait, pour moi, qu'on puisse dire, laissé sur ma faim, qui n'existe pas, comme diraient certains. Donc voilà. Eh bien, après cette rubrique à braque, nous allons passer au moment de l'invité avec Ludo.
Nous avons fixé une doctrine. Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Oh my goodness.
C'est un nouveau, ça, non?
Ça, c'est moi qui joue.
Ça, là, c'est moi, toi.
Non, non, si, si, c'est lui.
Pour venir skater avec toi.
Oh non, c'est pas possible, papa.
Ah bon, pourquoi?
Le skate, c'est un état d'esprit. On peut pas en faire n'importe quoi. En plus, t'as mis un t-shirt Superbus, regarde-toi.
Oh ouais, mais bon fiston, je me suis teint les cheveux en bleu.
Je suis pas sûr que ça soit mieux.
J'ai pris des cours sur internet.
T'as rien compris, c'est dans la tête. T'as pas le spirit pour faire du skate.
Viens ce soir, on va au concert de corps. Leurs mélodies me font rêver.
Voilà, c'était une petite illustration sonore pour
c'est
mettre
bon. C'est bon, ça.
En
ouais.
ligne. Alors effectivement, Christophe jouait dans Suicide Dolls and il y a quelques années.
C'est vrai, ouais. Moi, j'ai arrêté parce qu'il me faisait chier. En fait.
Pas assez métal pour lui.
Exact. Par contre, qui a composé le deuxième morceau?
Les Fatal Picard. Ah,
ouais. D'accord.
Voilà, donc un petit.
J'avais déjà entendu, mais je me rappelais plus qui le chantait, voilà. Les Fatal Picard.
Le premier album, là, enfin le premier morceau, faut que tu me dises.
Possessed to Skate des Suicide Dolls and Ecstasy. Je te passerai ça.
Ouais.
On le mettra dans le Spotify. Ouais. Tiens, allez.
C'était pas Christophe, c'était Robert Trujillo.
Non, mais si tu veux, Marius, tu me demandes, je te le joue quand tu veux. Hein.
Christophe Trujillo.
Ok, et donc, bah. Du coup, Ludo, on va te mettre dans le bain. Alors, le skate, c'est dans la tête?
Le skate, oui, sûrement, pour une partie. Déjà, pour se lancer à l'assaut des descentes, notamment là, la bouille, bon, 2 km 300, 5 à 6% de pente. Bon, on a l'habitude de descendre des cols de montagne bien plus difficiles.
Bande de fada.
mais voilà, il y aura de quoi s'amuser. Et par l'eau de 6 par 6...
J'ai enchaîné sur le morceau, mais on va quand même remettre un peu dans le contexte oui. global. Donc là, aujourd'hui, toi, tu es là en tant que président de l'USF Long Skate. Alors, il y a aussi les Riders en Bray. Ouais. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que c'est la même chose ou c'est...
Alors, le petit retour sur l'historique de l'association, voilà. Puisque un nom, c'est toujours un peu d'historique, d'histoire. Donc, l'USF Long Skate, ça veut dire Union Sportive Forgione de Long Skate.
Forge les eaux représente.
Ah, exactement. Donc, on est effectivement issu de Forge. On est issu de Forge les eaux, petite commune à 40 km au nord-est de Rouen. On a toujours vécu, bref, on est originaire et Riders en Bray, c'est un peu notre nom de scène entre guillemets,
le côté commercial.
Ouais, voilà, le côté un peu plus roots ou voilà, un peu plus fun, on va dire.
Mais non, je me suis pas planté pour
un peu moins officiel.
Voilà, il fait pas de la BD lui, non,
c'est sûr. On va dire qu'en gros Riders en Bray, c'est le nom de notre team, ouais, si on veut, ouais. Et puis USF Long Skate, c'est le nom officiel de l'association, quoi.
D'accord. Qui existe, si je dis pas de bêtises, depuis une quinzaine d'années bientôt.
Voilà, ouais. Créé en 2001 par Pascal Blondeau, un ami d'enfance.
Oui, Freddy.
Et par toi-même.
Non, ah, je pensais pas l'avoir tout de suite. Je voulais te laisser finir.
Tu lèves la main.
Créé par Pascal, je disais, et par moi et d'autres, voilà. Dès le début, on était le petit groupe de potes de Forge, et on s'est pas quitté, sûrement grâce aussi à l'association, mais de toute façon, des liens d'amitié qui seront à vie, voilà.
Ouais, oh, c'est beau.
Gravé à vie, c'est beau.
Oui, Freddy.
Oui, alors on a dit qu'on recevait un skater. Moi, je m'attendais à avoir un ado avec les cheveux bleus. Et en fait, pas du tout, quoi.
Ah non,
Ludo, il va avoir 32 ans cette année, il me l'a dit tout à l'heure.
Le petit polo bien repassé.
Voilà. Voilà. Tout ça pour dire.
Le genre idéal, quoi, vraiment.
Oui, il est pas rasé quand même.
Attaché caisse.
Ça craint.
Donc, l'habit ne fait pas le moine, finalement.
Non. C'est clair que dans le milieu de la descente, on a vraiment tous les styles.
Il y a Delphine, par exemple.
Il y a tous les styles.
Et tous les âges, donc.
Voilà. Alors, un peu tous les âges, oui. Alors, la grande majorité, globalement, c'est entre 16 et 30 piges. Et puis, ça va jusqu'à 50, 60 ans. Là, la bouille, le plus ancien va avoir de mémoire 57 ans.
Oh, bah, j'ai de l'espoir, alors. Je vais m'y mettre un jour.
Donc, voilà, ça a l'air d'être un sport, oui, c'est un sport extrême, mais je veux dire, sur des routes accessibles, c'est accessible au bout de une à deux années, c'est accessible aux enfants, aux anciens.
Ouais, moi, j'aimerais connaître l'origine originelle de ce sport.
D'ailleurs, oui,
c'est-à-dire que là, tu disais que ça faisait 2001 la création, voilà. Mais j'imagine que c'est sorti bien avant ça.
Pour remettre dans le contexte, c'est vrai.
Voilà,
que...
d'où ça sort et depuis quand?
Et puis tout à l'heure, on parle de skate, mais en fait. C'est pas le skate c'est pas du skateboard avec des figures.
C'est pas le skatepark.
Exactement.
Voilà. Exactement.
Là, c'est de la descente et de la vitesse, de la vitesse ou en tout cas des trajectoires et voilà. C'est plus ce type-là. Enfin,
nous, notre philosophie depuis le début de la création de l'asso, c'est vraiment la vitesse. Donc c'est la descente et puis la descente pour la vitesse, pour la compétition, etc. Il y a vraiment tous les styles qui existent dans le long skate. À la base, c'est issu, bien évidemment, comme toujours, des États-Unis.
Je m'en doutais.
Voilà, des États-Unis. Pour ce que j'en sais, c'est issu, bien évidemment, du surf à la base. Et globalement, ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est que les surfeurs, pour pouvoir aller à la mer ou revenir chez eux, se sont dit, tiens, on pourrait peut-être utiliser quelque chose qui ressemble à un petit surf avec des roues, quoi.
Une sorte d'échauffement, quoi.
Voilà. Donc voilà, et puis pour revenir donc sur les différentes styles, donc nous c'est la vitesse, mais il peut y avoir des figures, du dancing on appelle ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, du slalom, un peu tous les styles.
Mais ça veut dire que dans l'association, il y a tous les styles représentés ou
Alors non.
C'est vraiment, quand tu dis la vitesse, non, là vous êtes vraiment sur un créneau. Mais
sur un traîneau.
Nous on est ouvert à tout
avec des huskies.
On est ouvert à tout, mais globalement, donc là l'association actuellement c'est à peu près 30 licenciés dont on va dire une bonne quinzaine vraiment sur la région, et ensuite un peu de Parisiens, un peu de Bretons qui viennent s'inscrire chez nous par pur lien d'amitié qu'on a lié au fur et à mesure des événements. Ils ont des clubs juste à côté de chez eux, mais voilà, c'est un peu le feeling qui fait que. On n'a jamais. Nous, on est ouvert à toutes les disciplines, enfin, toutes les activités liées au long skate. Mais voilà, de par notre histoire, on est, on va dire, à 90% des compétiteurs et des descendeurs. Voilà.
Vas-y, Christophe.
Donc, tu parlais tout à l'heure de cette pratique se fait sur route fermée. Comment on fait pour s'entraîner dès l'instant où c'est sur route fermée? C'est-à-dire que on n'a pas la possibilité de s'entraîner, je sais pas, une fois par semaine, comme dans n'importe quel sport.
Ça, c'est
là,
questions.
Il faut que ça soit quelque chose de fermé.
Putain, donc, t'as bossé, toi. T'as bossé, toi.
Ouais, ouais.
Ça, c'est la question. J'espère du coup que je vais pouvoir répondre à toutes les questions, parce que si ça commence à ce niveau-là, non, très, très bien vu. Donc,
on a gardé les questions de Ludo pour la fin.
Autrement dit, tu seras pas un putain d'imposteur. Voilà.
Alors, de base, effectivement.
Non, mais c'est parce que ça m'intéresse et moi, j'ose pas me lancer comme ça direct. Et il faut que je m'entraîne avant, quoi.
C'est sûr.
Un camion.
Donc
ouais.
Là, il y a plusieurs possibilités. La première, lorsqu'on débute, déjà, c'est les pistes cyclables. Déjà, par principe, on peut aller.
Mais vous trouvez la pente quand même.
On connaît les pistes cyclables de l'île de Ré, c'est ça pour commencer en fait.
Éventuellement, bord de Seine. Typiquement, les bords de Seine dans Rouen, voilà, t'as envie de commencer à le long skate, c'est l'endroit presque idéal parce que la planche peut tomber à l'eau, mais bref. Mais voilà. Et puis ensuite, quand vraiment on attaque la descente, là, nous, la chance qu'on a ici en Normandie, c'est que quasiment dès le début de l'assaut, on a trouvé une route qui est à Dampierre-Saint-Nicolas, à côté de Dieppe, qui appartient à l'ONF, qui est donc privée, qui est donc fermée avec une barrière en bas, qui est large pour une voiture à peu près, 3 mètres à peu près, et puis avec 3 épingles. Enfin, on dirait en gros une petite route de montagne, un condensé de route de montagne. Donc avec 8 bons pourcents de pente. Donc agressif, bien intense. On l'a trouvé donc je disais l'assaut là à 14 ans, on a dû la trouver il y a 10 ans à peu près, 10-11 ans. Et depuis ce temps-là, globalement, c'est notre spot d'entraînement et ça nous permet, enfin ça nous évite effectivement d'aller nous entraîner sur route ouverte.
J'imagine.
C'est clairement pas le cas de tous les clubs en France, c'est assez rare d'avoir un spot comme ça de cette qualité-là et fermé facilement avec une convention toute simple avec l'ONF. Donc, bien évidemment que ça arrive que plusieurs et des groupes de long skateurs français et étrangers aillent s'entraîner sur les routes ouvertes. Donc ça, c'est le grand classique qu'on a nous-mêmes fait également quand on était plus jeune. Voilà.
En même temps, s'il y a de la bagnole, tu travailles les réflexes,
ouais, c'est ça, ouais.
La trajectoire.
Alors après,
tu fais pas deux fois la même erreur.
L'avantage de la route ouverte, c'est que on peut effectivement tester plusieurs types de trajectoires, plusieurs types de virages, des différentes pentes, etc. Donc on a tout un panel qui s'offre à nous. Comme vous l'imaginez bien, le gros désavantage, c'est la sécurité. Et on a beau faire un sport extrême, on n'est pas foufou, on n'a pas envie de se foutre en l'air. Donc on a quand même quelques moyens de prévention, de protection qui nous permettent d'assurer le coup, des talkie-walkie.
Ouais, parce qu'avec les forces de l'ordre, les radars, tout ça, non?
Oui, on a tous eu affaire, tous les clubs français ont eu affaire à un moment ou à un autre, voilà. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Globalement, ils nous disent, vous avez rien à faire là, vous partez, on part, on respecte, et puis à partir de là.
Ouais, fuck, enculé.
Oui, Starlet.
Donc tu parles de sécurité, dans le cadre d'un week-end comme ça, comment ça se passe au niveau justement des blessés? Vous avez des équipes tout le temps sur place?
Ouais, alors nous, donc on est un club affilié à la Fédération Française de Roller Sport, la FFRS. Dans ce cadre-là, lorsqu'on organise un événement, qu'il soit amical ou compétition, donc là pour la bouille c'est compétition, on a un règlement technique et sportif. Alors c'est un règlement, le RTS, qui existe dans n'importe quel sport. Il y a un RTS dans le foot, il y a un RTS dans le rugby, enfin peu importe. Donc là, notre RTS qui existe depuis quelques années, là il a été bien, il a pris il a bien évolué là cette dernière année, et il fait la distinction entre les événements amicaux et les rassemblements amicaux et les compétitions. Et dans ce règlement technique et sportif, il est bien décrit tous les moyens de protection qu'on doit mettre en œuvre, qu'il y a un directeur de course, qu'on doit mettre des protections type ballot de paille, filet, qu'il doit y avoir des commissaires de course, etc. Et en fonction du type d'événement, donc, la sécurité n'est pas les mêmes. On imagine bien que pour une compétition, il y a de l'enjeu, les gars vont vouloir se tirer la bourre. En gros, le risque est plus élevé qu'un simple rassemblement amical. À partir de là, on demande des secours plus importants. Donc là, typiquement, on est obligé d'avoir un VPS, un véhicule de premier secours, type ambulance avec civière à l'arrière, qui est là à disposition tout le long du week-end.
Et ça, c'est l'association qui finance le VPS en question?
Alors, avec l'aide de partenaires, et on y viendra tout à l'heure, mais effectivement, on est obligé de financer dans le cadre du budget prévisionnel de l'événement, on est obligé de louer
la présence.
Oui, il y a une prestation payante, de plusieurs centaines, voire quelques milliers d'euros.
Ah ouais. Donc, parce que c'est vrai que nous, on vous avait vu l'année dernière, lors de votre événement plutôt rassemblement sympathique qui était à Saint-Ouen-sous-Bailly. On a eu la chance de pouvoir jouer pour vos amis et collègues descendeurs, que ce soit Kenkyu ou moi avec Wisdom, et c'est vrai qu'on avait passé un bon moment. Et nous, on était revenus le lendemain voir un peu le...
Qu'est-ce que c'est Kenkyu?
On était revenus le lendemain voir la descente du côté de Dieppe, là. C'est vraiment quelque chose qui est impressionnant, avec effectivement, comme tu disais, des ballots partout, des grillages, parce que ça descend, que je dise pas de bêtises, mais vous avez des pointes aux alentours de 70-80 km/h,
ouais,
peut-être.
Alors là,
peut-être pas tout le monde, hein.
Non, là, en Normandie, pas forcément. On va plutôt être aux alentours des 60. Mais
c'est déjà pas mal sur des petites roulettes.
Voilà. Ouais, même pour quelqu'un d'expérimenté.
Faut pas se choper un caillou, quoi.
Même quelqu'un qui a 8-10 ans d'expérience, quand t'es sur une route étroite et que t'es à 60 km/h, bon, voilà, t'as de quoi. Tu t'amuses.
Avec nous, on était à côté du passage à niveau. Tu te dis, t'as plein de petits éléments du décor en fait qui sont des pièges en permanence, quoi.
Enfin, c'est genre passage à niveau juste avant. Un petit élément du décor.
Comme j'avais été épaté par l'organisation justement qui a été mise en place, et même les rouleaux de papier toilette à l'arrivée, à la fin de la descente et tout.
Les petites lingettes et tout.
Les slips fournis de rechange. Vraiment impressionnant.
Non, on est à fond.
Vous étiez au point. Vous étiez au poil.
Très sympa. Et du coup, par contre, c'était plus un rassemblement sympathique.
Voilà.
Et là, t'as commencé à un petit peu à l'évoquer. Là, ce que vous êtes en train d'organiser et qui se termine là un petit peu pour l'événement qui sera dans 15 jours 3 semaines à La Bouille, c'est donc une étape du championnat, non, c'est le championnat de France de descente One Shot 2015,
voilà.
Et aussi une étape de la Coupe du Monde. C'est ça que je vois dans l'événement Coupe du Monde de roller descente IIDA.
Parce que vous tapez dans l'international en plus.
Alors voilà, donc
éclaire-nous un peu sur ces sujets là-dessus.
En gros, c'est une compète divisée en deux, si on veut, les rollers d'un côté et puis de l'autre les disciplines de la Fédération française de roller sport. Du côté roller, c'est comment un organisme effectivement international qui s'appelle l'IIDA. Donc si je dis pas de bêtises de mémoire, c'est comment International Inline Downhill Association. Donc là effectivement ça va compter pour une étape de Coupe du Monde. C'est la seule étape de Coupe du Monde en France.
Ah ouais, d'accord.
Donc on a des Italiens, on a des Italiens qui vont venir, des Allemands, des Suisses.
Oh, des Allemands.
Des Allemands. Les Suédois.
On les a pas assez vus ceux-là.
Les Suédois, non.
Non. Dommage. J'aime bien les Suédois.
Surtout quand ils viennent accompagner.
C'est ça.
Voilà.
Et puis le championnat de France donc de descente, trois disciplines, le long skate, on vient de l'évoquer, donc un grand skateboard d'1 mètre, 1 mètre 10 de long, des grosses roues adaptées à la vitesse, globalement 2 à 3 fois la taille des roues d'un skateboard normal, et puis deux autres disciplines, cette fois-ci allongées. La première, c'est le buttboard.
C'est ça que je veux faire.
C'est quoi le buttboard?
Plus connu, avec un nom officiel qui s'appelle Classic Luge. En gros, c'est les pieds en avant, allongés sur une planche en bois qui ressemble à peu de choses près à un long skate, mais avec des critères que je n'ai même plus là en tête, mais je veux dire des critères de diamètre de roue, de hauteur par rapport au sol. Enfin, c'est très très réglementé.
Très précis,
même pour les longs skates, c'est hyper réglementé. Ouais. Il y a des roues de diamètre maximal, bref. Et puis la dernière discipline, c'est la street luge. C'est exactement le même principe que le buttboard, c'est-à-dire allonger les pieds en avant, sauf que là c'est sur un matériel plus costaud et plus lourd, en acier la plupart du temps, en inox souvent, ou en aluminium, qu'on voit, donc c'est typiquement la discipline qu'on voit très régulièrement sur internet ou sur les Eurosport, etc., aux États-Unis. Ça c'est d'accord. Vraiment le truc.
Et ça bloque pas les gens de ce genre de compétition de partir les pieds devant?
Ça leur permet de freiner surtout.
Voilà.
Ils freinent avec les pieds devant.
Voilà,
mais attends, c'est carrément casse-gueule, non?
Non. Pareil, ça s'apprend. Ouais. Ça s'apprend. Tu
on va te montrer tout à l'heure dans la rue.
Ils ont des semelles en titane.
Voilà, ils ont des semelles fabriquées made in
en cordelette. Ils font ça en espadrille.
Avec du pneu de voiture.
Ah, voilà.
Du pneu de voiture ou du tapis industriel. Là,
d'accord. J'étais pas si loin de la vérité.
Ludo, oui. Oui, juste une question, alors ce qui peut-être rien à voir, mais les mecs qui descendent, tu sais, l'école de montagne dans les Andes, qui sont des espèces de petites barcasses en bois, est-ce que ça se rapproche un peu de l'idée?
C'est des voitures, alors,
c'est encore une autre discipline.
Ça, d'accord.
C'est le trempe-la-mort.
Les caisses à savon.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Les caisses à savon ne font pas partie de la Fédération française de roller sport, mais il y a des événements de caisses à savon, notamment dans la région, il y en a pas mal. le gros avantage pour eux, c'est qu'ils sont moins soumis à la qualité du bitume.
Et à la réglementation, parce qu'ils font ce qu'ils veulent.
Alors, je sais plus. Je pense quand même qu'ils doivent être affiliés à quelque chose, mais en tout cas pas à notre fédération.
Pourquoi tu dis qu'ils sont moins soumis à la qualité du bitume ?
En fait, en gros, nous, on
les
a
roues
des
sont
roues
plus grandes, enfin plus,
ouais,
plus larges.
Roues plus grandes et sûrement. Alors, je suis loin d'être un spécialiste de leur discipline.
Marius, oui, apparemment.
Des roues d'un diamètre plus grand, plus large, type pneu de voiture,
c'est ça, en fait,
mais en tout petit.
Ah, oui, okay.
Et donc, à partir de là, même si le bitume est un peu graveleux, tu peux tout de même rouler dessus.
Voire roue de caravane.
voilà, roue de caravane, roue de remorque, un peu dans l'esprit. Là, nous, voilà, c'est de la toute petite roue.
Ah oui.
Parfois même avec des duretés importantes pour éviter, pour avoir de la glisse particulière ou quoi. Et à partir de ce moment-là, le moindre graton sur le bitume, ça te fait des sensations un peu moins agréables.
Donc là, vous êtes dans le cadre d'un championnat. Donc les gagnants, ils se mesurent au quoi ? Au meilleur temps ? Alors, il y a des fautes qui sont comptabilisées. Si on met une main par terre, j'en sais rien.
Non, mais c'est encore une fois.
Non, mais t'as des bonnes questions aujourd'hui.
Je suis même sûr qu'il a dû lire le règlement technique et sportif avant de venir, ouais. Et il me pose des trucs histoire de voir si je connais le règlement.
C'est ça,
en fait, je l'ai appris par cœur.
C'est
la puissance intellectuelle.
Parce que nous ici, on fait, on défait les carrières.
J'avais prévu de le dire. Merci.
Laissez Ludo répondre à la question.
Donc, la compétition, comment ça se passe ? D'abord, des périodes d'échauffement. Donc là, par exemple, la compétition commence le vendredi 8 mai à 13h. Donc le vendredi après-midi, déjà, c'est reconnaissance. C'est comme si on était sur un événement amical. Voilà, chacun fait sa descente. Il a envie de descendre avec les copains, il le fait. Il le fait tout seul. Tout le monde fait ce qu'il veut, mais presque. Pendant cette période-là, par contre, nous, organisation, ce à quoi on est vigilant, c'est le port des équipements de protection. Casque intégral obligatoire,
voilà,
dorsale, coudière, genouillère, etc. Et à partir du moment où là, on rentre vraiment dans le cadre de la compétition, où on... je vais y venir, comment ça se déroule. Là, en termes d'équipement de protection individuelle, il y a carrément la combinaison en cuir intégrale obligatoire.
Style motard.
Voilà, exactement. Donc je disais reconnaissance. Ensuite, le samedi après-midi, après avoir fait globalement deux demi-journées de reconnaissance, là, ça va être les chronos. Donc là, en fait, on loue, encore une fois, on parle argent, mais c'est comme ça que ça se passe. On loue des transpondeurs, des genres de bracelets que chacun a autour de son poignet. Et puis, il y a une balise en haut, une balise en bas, on a le chrono du gars. On leur fait faire 2, 3, selon la météo, selon le temps qui nous reste, on fait le plus de chronos possible tant qu'à faire. On réalise effectivement un classement sur la base de ce chrono, du meilleur au moins bon. Et à partir de là, on crée des poules. Des poules habituellement de 4x4. Mais là, vu que la route est relativement large et d'un pourcentage relativement, on va dire, modeste, pour en rajouter un peu de piment, on a fait le choix de faire 6x6.
Vous faites partir les...
Voilà, on va faire partir les compétiteurs 6x6.
Wow. Départ de Formule 1, quoi.
Donc là, c'est un truc un tout petit peu complexe, mais globalement, pour faire les poules, on prend le premier, on prend le dernier des chronos, et les deux du milieu. Ensuite, la deuxième poule, ça va être le deuxième, l'avant-dernier, ainsi de suite.
Ah, vous mixez, en fait.
Là, je l'ai fait pour 4, parce que pour 6, je l'ai pas en tête, là. Mais,
moi, j'ai déjà pas compris pour 4, donc. C'est
cool. Et après, il y a racine
cubique. Fais-le pour 2 pour Marius.
Et ensuite, on calcule la dérivée par rapport
à
la fonction exponentielle.
Mais les poules, elles sont où là-dedans, les poules?
Marius,
vous mettez des poules sur la route, il y a déjà des graviers et tout ça.
Et donc voilà, et donc là 6x6, et là l'enjeu c'est d'arriver, on n'a pas encore complètement défini parce qu'on a de la liberté là-dessus, donc on n'a pas encore pris le temps de décider si on allait retenir que les deux premiers arrivés en bas ou les trois premiers, mais globalement voilà, les gars sont lâchés 6x6, les gars ou les filles sont lâchés 6x6, et on retient les deux ou les trois premiers pour la poule d'après, ainsi de suite.
Il n'y a plus de chrono là du coup.
Là il n'y a plus de chrono, là c'est vraiment que physique.
C'est des qualifs un petit peu en fait, une sorte de qualif, et puis là il y aura une finale j'imagine.
Exactement, c'est-à-dire que dans notre jargon, les qualifs ça va être plutôt les chronos du coup.
D'accord, ouais.
Et puis à partir du moment où les chronos sont terminés, là on rentre dans le cadre des finales, où on peut éventuellement partir à partir des 16e de finale. Là, dans notre cas précis pour la bouille, on va avoir entre on va avoir à peu près 80 riders. Bon bah globalement on va faire sûrement des 16e de finale pour que n'importe qui, même celui qui a fait le plus bas des chronos, puisse quand même au moins faire une finale à 6, parce que c'est toujours sympa à faire. Et puis ensuite 8e de finale, quart de finale, etc. Et les finales pour toutes les disciplines seront le dimanche après-midi, le dimanche 10 mai.
L'organisation doit te prendre un temps fou. Est-ce que tu participes du coup à cette compétition?
Elle a posé la question, je l'avais écrit, la bordel.
Alors non, là, bon déjà moi j'ai...
C'est prendre des goûts dans cette émission.
Ça fait 14 ans que je skate. J'ai eu des enfants il y a quelques années et tout dernièrement, donc j'en fais de moins en moins, voire presque
de quoi,
plus
des enfants. D'enfants.
peut-être aussi, mais bon bref. Et donc là, on comment et en plus étant président depuis 2 ans et avec l'organisation de ce gros festival, c'est clair que là, j'ai plus du tout le temps d'en faire. Il est bien évident qu'on n'organise pas tout ça pour rien. Il faut quand même prendre du plaisir. Donc je vais au moins faire, j'en sais rien, 3 ou 4 descentes, mais pour le plaisir, je vais pas être inscrit à la compétition. Par contre, pareil, on a toujours fait le choix pour récompenser un peu les efforts des différents bénévoles, de leur dire, ok, t'as quand même le droit. C'est pas parce que t'es commissaire une bonne partie du week-end que t'as pas le droit de faire la compète.
C'est pas frustrant en fait, ou ça manque pas?
Alors pour moi, à titre personnel, là maintenant tout de suite non, parce que je suis tellement pris dans l'organisation que c'est ça qui m'intéresse et je prends mon pied à le faire, donc voilà. Mais je pense que oui, une fois que ça sera passé rapidement cet été, je pense que au moins un ou deux événements en France.
Parce que si tu organises cet événement là, c'est parce que c'est ta passion. Donc c'est vrai qu'y passer un an et demi sans pouvoir y participer, je vais pas remettre le couteau dans la plaie.
C'est totalement assumé. Non, c'est pas horrible. C'est on va dire un autre état d'esprit pour le sport. C'est-à-dire que même quand tu fais ton sport, ce que tu souhaites, c'est que ton sport se développe. Donc là, on va dire que le poste que j'ai repris de la main de pote à moi, qui était également président avant moi, c'est pas le summum du développement de ce sport en France, mais voilà, tu participes encore plus activement au développement du sport. Et je suis arrivé chez moi.
On est en train de voir Marius préparer une nature morte pour une photo.
Il prend des photos, il prend le pot de miel en gros plan. Mais arrête tes photos de merde, le caviar et les chocobons, quoi. Sérieux, t'as pas.
Ah non, il manquait les hérissons.
Au secours, mais c'est pas possible.
C'était vachement bien ce qu'il était en train de raconter.
Je suis désolé.
Petit chocobon, tu attends.
Ah, mais tu déséquilibres la composition.
C'est que le 6e.
Ne vous occupez pas de moi.
Ah non, mais moi je peux pas ne pas m'occuper de toi.
Tu nous perds le fil. Il va falloir plus de vie.
Excuse-moi, je suis vraiment désolé, mais là.
En fait, ce que tu disais par rapport à l'organisation, le truc quand même, c'est que par ailleurs, tu participes à d'autres événements. En fait, tu te consacres en fait à cette organisation-là pour cet événement-là pour élargir, je dirais, pour faire diffuser ce type de sport.
Le cercle.
Bah oui, le cercle. On va en parler un peu plus tard, ça, du cercle. Mais. Donc ce rassemblement entre amis, vous élargissez. Donc qu'est-ce que je disais?
Et donc, moi, j'ai rien demandé, quoi.
Attends, merde.
Non, mais voilà. Donc en fait, la frustration du coup passe au second plan, j'imagine.
Exactement. Voilà. C'est exactement ça.
L'année dernière à Saint-Ouen, t'avais enfilé la combi, hein, au moment, il me semble.
La combi de cuir, là.
Tant que c'est la combi.
C'est la bon. Combi, c'était un pote qu'on
avait. Les yeux, t'avais enfilé la combi.
La combi, parce que.
Et il va mieux la combi de cuir ou pas?
Non.
Pardon.
Tu veux dire que la combi c'est un gros lourd qui a des tendances.
C'est le moustachu.
Vas-y, pardon. Événement amical. Du coup, grosse différence avec un événement compétition. On a beaucoup plus le temps de faire un peu ce qu'on veut. Donc de skater. Et voilà, une compète c'est beaucoup plus d'orga. Là qui plus est, c'est en festival. On y viendra sûrement pour développer un peu les autres activités qu'il y aura. Mais en gros, ça va être 100% de mon temps à 4-5 descentes près.
Vas-y, Delphine.
Voilà.
Et pour la compétition, qui peut s'inscrire? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde?
Alors, pour la compétition, c'est ouvert uniquement aux licenciés.
il faut juste être licencié.
Faut être licencié
pour les assurances et les choses comme ça.
Voilà, ouais. Exactement.
Question à la con qu'elle a.
Et puis, donc c'est dans le règlement. Encore une fois, on y revient toujours, mais parce que dans les sports c'est comme ça. Ça fait partie du règlement technique et sportif.
Il n'y a pas de limite d'âge, etc. C'est juste.
Non. Pas de limite d'âge. Après, là, en fonction du nombre. Là, par exemple, cette année, on va avoir pas mal de juniors. Globalement, on va peut-être en avoir 8-10. Bon, là, on va pouvoir faire un podium championnat de France junior. Mmh. Mais c'est pas le cas tous les ans, par exemple. D'accord. Donc, ça dépend de
Oui, Ludo. Justement, par rapport à ce que disait Delphine, c'est quoi les qualités qui font un bon skater pour toi, en fait? C'est.
Est-ce que c'est physique déjà?
Alors, est-ce que c'est l'équilibre? Le mental, c'est quoi? C'est l'équilibre, c'est quoi?
Est-ce que c'est dans la tête?
Est-ce que c'est le col du fémur solide? C'est quoi?
Alors, l'équilibre, c'est clair. Je pense même que l'équilibre vient sûrement en premier. Mm-hmm. Ne pas avoir peur. Donc, mais de ne pas avoir peur, ça vient.
Bon, ben moi, c'est foutu.
Je crois que Delphine aussi, elle va rester là.
Mais ne pas avoir peur, ça vient avec l'entraînement. C'est-à-dire qu'au début, on est à 10 km/h et on n'en peut plus. Et puis, rapidement, ouais, en 1 ou 2 ans, on est capable de descendre à 30, 40, 50 km/h. Et au bout de plusieurs années, nous, désormais, moi maintenant, parce que j'en fais moins, mais je veux dire, quand on était un peu au taquet, tu descends à 80, 90 km/h, t'as la même sensation que quand t'étais au tout début à 10 km/h. Mmh. Enfin, j'exagère, mais ça n'en est pas loin.
Parce que tu mesures ta vitesse, t'as un petit appareil
GPS
ou...
éventuellement, GPS ou compteur de voiture.
D'accord.
Nombre de mouches dans les dents. Là, je suis à 80 mouches par heure. Tu vois, 80 mouches à l'heure.
C'est ça. D'ailleurs, les KM, c'est kilo mouches. Kilo mouches par heure.
Mais l'année dernière, à Saint-Ouen, tu avais fait une descente avec ta fille.
Qui
doit avoir l'âge de la nôtre.
Ah, voilà, 4
donc,
ans.
Tu l'initie assez tôt.
Ouais. Ah, oui, clairement.
Tu n'allais pas à 90 km/h.
Non.
Ah, ça reste dans la thématique. À quel âge on peut commencer?
Donc, je pense que là.
Il n'y a pas d'âge, en fait.
Alors, ça dépend ce qu'on appelle commencer, c'est-à-dire juste tester avec son père qui a 14 ans d'expérience, ça peut être 4 ans. Voilà, d'accord. Je l'ai fait l'année dernière. et en descendant très calmement, voilà. À partir du moment où vraiment l'enfant veut essayer tout seul, moi je dirais globalement 14 ans,
ouais.
Histoire d'avoir déjà un minimum de musculature. Enfin, je suis pas médecin, mais en gros, le physique qui commence un peu à se développer.
Donc la catégorie junior, c'est jusqu'à, du risque, c'est en fait, jusqu'à quel âge du coup?
Globalement, c'est jusqu'à 18.
Ah d'accord.
Voilà. Okay. Il y a pas forcément. Je ne suis pas sûr. Là, tu me poses une colle, tu vois. Je suis pas sûr.
C'est moi qui l'ai eu.
Je suis pas sûr qu'il y ait d'âge minimal réglementé quelque part. Je l'ai jamais lu. Ça existe peut-être. Hein, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que Moi, je pense que raisonnablement, 14-15 ans, d'accord, c'est le bon âge pour commencer à démarrer.
Freddy, je reviens sur le côté sport. Bon, on est d'accord, c'est un sport. On est d'accord que c'est du haut niveau. Est-ce que pour autant on peut dire que c'est un sport de haut niveau?
En tout cas, c'est une question de haut niveau. Hein.
Ouais. C'est bien de pas prendre l'apéro avant, en fait.
Du haut niveau, comme dans tout sport, il y a différents grades entre guillemets. Enfin, nous on organise le championnat de France, mais il existe aussi un championnat du monde. Clairement, la différence entre le niveau là du championnat de France et le niveau du championnat du monde, il y a un gros delta. Pour moi, ça serait peut-être plus à l'échelle du championnat du monde où là ça commence à être du sport de haut niveau.
Il faut un investissement vraiment important.
Voilà, il faut faire un peu le tour de la planète parce que du coup il faut aller en Afrique du Sud, un mois après t'es en Asie, bref. Et donc là, t'as typiquement, une petite cinquantaine de riders mondiaux qui là sont sponsorisés. Ils en vivent pas, je pense pas complètement. Il y en a peut-être que 2-3 qui en vivent totalement dans le monde. Il y en a, on va dire, une cinquantaine qui sont vraiment le haut niveau sportif, quoi.
Alors ça, c'est intéressant, mais c'était pas vraiment le sens de ma question. Ah. C'était plutôt, est-ce qu'il y a une préparation spécifique? Qu'il y a une collation où tu vas manger des pâtes 3 heures avant? Okay. Est-ce que tu vois, c'est une approche
non,
comme
là-dessus,
ça?
En tout cas, à notre niveau, ce qui est le plus important, et ce qu'on ne fait pas suffisamment, c'est s'échauffer. Ça, c'est vraiment le plus important.
Mais est-ce que tu fais de la muscu? Est-ce que t'as un programme?
Non, au niveau de la bouffe, etc. Le fait rien que de skater régulièrement, de toute façon, ça te musclera et ça te muscle musclera par rapport à notre sport. Donc de là à faire de la muscu en amont, en salle, etc. Non.
C'est-à-dire que le gars qui va courir régulièrement pour s'entretenir, pour être
éventuellement,
plus en forme,
éventuellement,
il n'aura pas forcément un gros avantage sur l'adversaire fait rien.
Ouais, non, parce que en gros là, typiquement, c'est pas un sport. Vu que c'est un sport de descente, il n'y a pas de il y a un effort physique, mais je veux dire, c'est pas de l'en. Alors ça serait plus de l'endurance par exemple, parce qu'il faut tenir la cadence sur une, deux, trois journées avec des descentes régulières. Donc ça, c'est plus de l'endurance. Maintenant, c'est pas un effort physique qui va te.
T'as pas les cuisses comme au ski ou des choses comme ça.
Alors, si, à mon avis, c'est les cuisses qui peuvent m'enfler à mort.
Je voulais plus dire dans la respiration, par exemple. C'est-à-dire,
c'est pas un sport cardio, en fait.
Voilà, en bas, alors cardio peut-être plus par rapport au stress, mais en tout cas pas cardio parce que t'as fait un effort hyper intense, voilà.
Est-ce que dans la discipline, il y a des têtes brûlées? Qu'il faut parfois
éviter,
cadrer, non, cadrer, stopper, cadrer ou stopper. Limiter, ou en général les gens sont assez se tiennent à vie.
Non, je dirais que en général les gens quand même. Alors sur les événements, les gens sont relativement disciplinés et voilà, acceptent. Il y a les règles. Chocobon. C'est une émission sponsorisée par
Chocobon. On devrait leur demander.
Il reste de Pâques.
Ah, nous, on a essayé hein, pour l'événement. Ouais. On a envoyé un courrier. Mais bon, pas de réponse. Dommage.
Bon, Choco, c'est pas bon. Hein.
Et donc, tu me disais.
Donc, oui, voilà. C'est
pardon.
Ça. Du coup, j'ai perdu le fil. Désolé.
Là, je disais, oui, voilà. Est-ce qu'il y a des têtes brûlées qu'il faut canaliser ou est-ce qu'en général, les gens se...
Globalement, les têtes brûlées, elles sont pas sur les événements. Les têtes brûlées,
elles sont mortes.
Elles sont tellement brûlées que ils sont anti-événements, par exemple.
Ah, ok. Oui, ils veulent pas rester dans un cadre, justement.
En gros, c'est des gars qui
vont
aller descendre des cols de montagne, route ouverte. Et ils ont, entre guillemets, ils ont besoin de personne pour skater.
D'accord.
Donc, c'est un peu ça le point de vue. Donc, on les voit pas sur les événements, ou très très peu.
Parce que moi, j'associe l'image du skate à quelque chose, effectivement, genre cette espèce d'esprit un peu libertaire. Belle. Voilà. Et donc, du coup, je me dis, dedans, il devait y avoir forcément des.
Mais encore, c'est pas les mêmes, hein. C'est pas les gens avec des baguilles, des baskets, etc. Enfin,
oui,
il y en a
oui.
qui sont habillés comme ça, mais dans la compétition, c'est pas du tout ça, effectivement, c'est des gens qui. Ils sont tous.
Ah oui, pas de délinquants, tu veux dire, ça reste. Quand
exactement.
Même... Ah oui, c'est important.
Ouais, t'as un peu.
t'as tout. On se permettra pas de
couper. Faut pas déconner non plus, hein. Faut arrêter les conneries à un moment.
Et donc là, Delphine parlait des inscriptions, mais ça reste quand même un événement qui est ouvert au public. C'est-à-dire, il n'y a pas que les skateurs ou les compétiteurs qui sont là. Et c'est accès gratuit, libre. C'est comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des endroits particuliers pour est-ce que quelqu'un qui voudrait y aller le week-end du 8 mai, il se pointe à la bouille et puis en gros il se met là où il trouve de la place, un peu comme sur le Tour de France, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu plus organisé? Alors, on voit la descente là.
Voilà. Donc,
enfin, on la voit.
Bien.
Mets la mienne devant le micro, Fredis.
Ludovic Turban est en train de montrer une plaquette donc, à tout le monde.
On voit qu'ils ont bien préparé l'événement. Il y a un beau dossier.
Ça t'étonne de Ludo, toi. Oui.
Une plaquette contient dossier. Une photo avec un trajet.
Beau dossier obligatoire parce que arrêté préfectoral.
D'accord.
C'est une route départementale. On peut pas bloquer une route départementale comme on veut. Dossier, voilà, avec la description de comment tout va se dérouler. Donc, comme je disais, c'est une compétition descente, mais plus largement, c'est un festival multidiscipline de roller skateboard de la Fédération française de roller sport. On s'est mis en partenariat avec d'autres clubs de la région. Je vais en citer quelques-uns, mais tu les as aussi sûrement listés. Les Spiders de Rouen pour le roller hockey.
Oui.
Alors
moi, j'ai que les adresses internet, donc ça ne parle pas forcément. Mont-Saint-Aignan roller skating.
Voilà, Mont-Saint-Aignan roller skating pour la randonnée. Il va y avoir également.
Club Komodo.
Du roller artistique.
Oui,
donc
c'est
avec
ce que je vois aussi.
Un club de Notre-Dame de Gravenchon. Et de la vitesse avec de la course, donc avec mes vitesses cette fois-ci roller au sol, c'est-à-dire sur des pistes fermées ovales, un
d'accord.
peu comme le short track
sur la glace.
Voilà, donc avec un club d'Elbeuf, de Saint-Pierre-des-Elbeufs plus précisément. Pour ce qui est de ces différentes disciplines, artistique, hockey, freestyle, vitesse, randonnée, ça va être sous forme d'animation, démonstration. Tout du long du week-end, en parallèle de la compétition descente. donc en bas dans le cœur du festival qu'on va installer sur le terrain de foot à côté du bac de la Bouille. Il y aura plein de voilà, de stands,
chamboule tout,
buvette, restauration, cochon, buvette, restauration, etc.
On va faire le coup de poing là-dessus quand tu tapes.
On voulait Barba Papa, on l'a pas osé. Et t'auras donc toutes les démonstrations, les animations à cet endroit-là, accessible au public, gratuitement. Et pareil, la descente, accessible au public, gratuitement. J'ai été contacté par exemple il y a une semaine, on a mis un article sur le site internet de la région de Normandie, puisque c'est un des organismes de subvention, contacté par une asso de personnes polyhandicapées et qui souhaitaient savoir si c'était accessible pour ce type de personnes. On leur a dit pas de problème, on a prévu des places pour qu'ils puissent accéder relativement
sur ta carte
proche des animations.
Personne handicapée, voilà.
Ce qu'il voulait, descendre aussi en fauteuil.
Non, juste voir.
Oui, est-ce que pour l'organisation vous avez rencontré des difficultés par rapport à ça? C'est quoi les principaux écueils, les obstacles, ou ça a roulé tout seul?
Déjà le.
Est-ce que vous avez trouvé un groupe de musique pour le soir?
Attends, il répond déjà à ma question.
On y va.
Je blague.
On a énormément. Enfin, le plus important pour l'organisation d'un événement comme ça, et du coup, je l'ai un peu appris, même si je le touchais du doigt, mais voilà, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il faut s'y prendre très très longtemps à l'avance. Là, globalement, janvier 2014, le début de la réflexion, rencontrer la mairie. À partir du moment où on a l'idée du festival, rencontrer les autres clubs. Enfin, c'est énormément de rencontres, d'échanges d'emails, de téléphones, etc.
Ça fait pas trop peur d'ailleurs quand tu vas démarcher une mairie et lui dire voilà, on aimerait faire une compétition de longboard.
Alors, sur le principe, ça pourrait, sauf que la chance qu'on a, c'est que du coup, on a 15 ans d'expérience, qu'on a un dossier béton, on a peut-être pas des centaines, mais des dizaines et des dizaines d'articles de journaux. On a le règlement technique et sportif pour s'appuyer dessus, on a la fédération française qui est derrière nous, enfin on n'est pas des rigolos, quoi, dans le sens où quand on vient on montre tout de suite que on sait faire et que ça va,
oui, déjà,
ça va
être carré. Ça fait sérieux déjà,
voilà. Donc typiquement janvier 2014, je rencontre monsieur Joël Temperton, le maire de la Bouille, que je ne remercierai jamais assez de nous avoir accordé sa confiance. Avec quelques articles de journaux, un descriptif de l'association.
Un an et demi avant.
De là, lui, il me dit, sur le principe, ok, maintenant, faut voir.
Toutes les procédures qui vont avec.
Voilà. Et puis, après, tu te fais dans ta tête un rétro-planning pour te dire, à telle date, il faudra absolument que le dossier soit déposé en préfecture.
Ça veut dire qu'encore avant, t'avais repéré le.
Donc encore avant, on avait
le lieu.
Celle de la Bouille, nous, on l'avait descendue route ouverte pour rien de cacher. Il y a des années, il y a au moins 8 ans. Et du coup, on avait toujours un peu ça dans le coin de notre tête, de se dire quand même, c'est une route sympa. Ça serait vraiment bien qu'on arrive à faire un truc un jour là-bas. C'était resté dans les cartons, un peu oublié. Et puis là, quand justement pour cette année, on cherchait une nouvelle descente, ça fait plusieurs années qu'on le faisait donc à Saint-Ouen-sous-Bailly, c'est revenu comme ça un peu, tiens, la Bouille au fait. Donc on est retourné voir, et ça a confirmé un peu ce qu'on se disait. Non, elle est vraiment, vraiment agréable. Le cadre est juste magnifique. C'est touristique, oui.
Il y a celle de Lyons-la-Forêt qui est pas mal.
Lyons-la-Forêt.
Ou le circuit, la côte des Essarts aussi.
Côte des Essarts, alors un peu moins, un chouïa moins pentu, plus longue, encore plus molle. Donc
plus technique peut-être.
Non, pas forcément très intéressante. Ouais, bizarrement. C'est-à-dire que la pente doit être aux alentours de 4-5%, donc là ça devient vraiment limite pour nous. Là en gros la Bouille c'est entre 5 et 7.
Ah oui.
Si tu descends en dessous de 5 sur une petite distance, c'est pas le problème. Si c'est 4% sur 1 km, tu te traînes et ça sert à rien du tout, quoi. Donc les Essarts, c'est marrant parce que tout le monde effectivement fait référence à cette route.
Oui, on y pense parce qu'il y a une course de côte de voitures notamment.
Elle est connue mais moins intéressant.
Vas-y Ludo. Oui, je voulais dire l'étape, donc c'est la descente que vous avez prévue. Comment ça se, vous la proposez dans le cadre du championnat du monde? Comment ça se décide?
Alors Là, la chance qu'on a, encore une fois, pareil, l'expérience, 15 ans de relationnel, on connaît les gens, donc on connaît par exemple donc le responsable de l'IIDA en France, Alexandre Lebrun, qui du coup se charge de l'organisation de l'étape de Coupe du Monde de roller, enfin qui nous aide à organiser l'étape de Coupe du Monde de roller. Qui apporte des sponsors pour cette étape-là, des contacts, etc. Et puis voilà.
Et du coup, comme c'est une compétition internationale, juste comme ça pour savoir, est-ce qu'il y aura des Américains, par exemple, présents ou pas ? Parce qu'ils ont l'air de dominer la discipline, plus ou moins.
Ouais. Alors, en France, ce qui attire les Américains, ça serait si on faisait effectivement montagne, étape de Coupe du Monde et en montagne.
Mais là, il n'y a pas une étape de Coupe du Monde ?
Alors, ouais, étape de Coupe du Monde, mais roller. Et ah, oui, bon, juste bizarrement, bah, du coup, roller, c'est peut-être un peu moins États-Unis. Ah, donc, oui, du coup, là, c'est italien, allemand.
Ah, deux Allemands.
Belge, belge, hollandais, suisse, etc. Les pays limitrophes de la France, je ne crois pas qu'il y en ait un peu plus loin. Et puis, par contre, pour le long skate, la street luge, le buttboard, là, ce qui attire vraiment les Américains, c'est les gros, gros événements. Donc, il y en avait un encore jusqu'à l'année dernière, qui se basait dans les Pyrénées, dans une station qui s'appelle Pays Ragude. C'est une petite station de ski. Et là, par contre, voilà, gros, gros événement sur trois jours, avec rediffusion sur Internet en live, hein, vraiment le gros truc. Mais organisé par des Français et qui attirait du coup les Américains.
Et vous, justement, tiens, tu parles de ça, la diffusion par Internet, des choses comme ça, la communication, elle se passe comment ? Vous avez des relais qui soient... Alors nous, on n'est pas des grands médias, loin de là, mais justement, est-ce que vous êtes relayé par des médias nationaux, sportifs
spécialement la chaîne normande.
Alors voilà, donc déjà on est en contact avec effectivement la chaîne normande, Normandie TV. Enfin, ou c'est peut-être deux trucs différents.
Il y en a deux, ouais.
C'est fini Normandie TV.
Alors donc c'est la chaîne normande. Voilà, après c'est énormément internet de toute façon, Facebook en premier lieu. Donc sur Facebook, c'est faut taper chaud bouillant roller skate festival.
On mettra le lien de toute façon vers l'événement.
Tomber effectivement sur la page de l'événement. Et puis ensuite sur les différents sites internet de nos sponsors ou organismes de subvention. Donc par exemple là actuellement, il y a un article sur la région, Haute-Normandie, et puis il va y avoir des articles sur les journaux locaux, Paris-Normandie, enfin voilà, un peu tout le panel. On fait aussi bien, et puis on aura des flyers et des affiches qu'on va disposer à partir de la semaine prochaine. Et dès ce soir, alors je ne sais pas quand l'émission sera diffusée.
On est le 18, mais ça sera
on est le 18,
pas avant... pas avant, au mieux demain soir, mais ça dépend du temps qu'il fait, si j'ai envie de m'enfermer pour faire du montage.
Ce soir, à partir de 18-19h, là, on va diffuser sur Facebook la vidéo promotionnelle de l'événement.
D'accord.
En gros, ça va présenter toutes les disciplines du festival. Et puis, ça sera vraiment axé public, quoi. Voilà, montrer au public les différentes disciplines et leur donner envie de venir, quoi.
De toute façon, on le relaiera, même si l'épisode est déjà... Ça ne change rien, c'est pas tellement un souci, effectivement. Et... juste pour un petit sujet, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, tu l'avais un petit peu évoqué, je dirais, comme ça, au détour d'une phrase. Cette discipline, on parle depuis tout à l'heure plutôt comme si c'était quelque chose de masculin, mais il y a quand même aussi des femmes qui participent à ces disciplines, parce qu'il n'y en a pas qu'une. J'ai pu voir, notamment en regardant sur votre site, que vous aviez une Riders en Bray, alors Frédéric Berdon, si je ne dis pas de
c'est
bêtises,
ça, exactement.
Qui a été donc sacrée championne du monde IGSA en août dernier, en 2014. Voilà. Donc effectivement, elles ne sont pas cantonnées non plus au second rôle, loin de là. C'est vraiment un sport qui est... qui est multisexe.
Ouais, complètement.
Et enfin, il y en a que deux en même temps.
Multisexe.
En le disant, je me dis, c'est un peu bizarre comme ça.
Tous une image en tête, bien sûr.
Un truc de taré, moi.
Mais du coup, est-ce que j'avais dans la tête est-ce que tu sais nous dire justement la proportion de femmes dans ces sports-là ? Et effectivement, est-ce que c'est des compétitions qui sont garçons d'un côté et filles de l'autre, un peu comme on pourrait avoir en ski, ou c'est vraiment quand ils vont être 6 à s'élancer sur la ligne de départ, est-ce qu'ils vont être toute catégorie d'âge, de sexe, etc.
Ouais, alors au niveau donc
deux fois sexe
homme-femme.
Oh, je suis tout rouge.
Globalement, les femmes à la très grosse, ça doit représenter peut-être 10-15% pour ce qui est de la descente.
C'est déjà pas mal, en fait, je m'attendais à moins
ouais,
que ça.
Je dirais 10, ouais, peut-être 10. Et puis, par contre, je pense que le pourcentage est en train d'évoluer en ce qui concerne la pratique au sol, le dancing, comme je disais tout à l'heure, où ça plaît énormément aux jeunes filles, ados ou plus vieilles. Et donc ça se développe beaucoup. Il y a notamment des crews féminin, pareil, qui se revendique comme étant des crews à part entière. Donc ça, c'est vraiment en train de se développer. Là, sur la compétition, on va clairement pas avoir assez de femmes pour faire des podiums à part, à moins que là, ça s'excite dans les derniers jours, mais vu le listing que j'ai pour l'instant, voilà. Donc ça va être des podiums mixtes. Mais Frédéric est largement capable de la mettre à
c'est
des
pas mal aussi d'avoir
des
podiums mixtes justement pour les je dirais pour un peu donner un coup de modernisme au sport où tu fais vraiment des choses les filles d'un côté les garçons
ouais,
de l'autre
ouais,
c'est quelque chose d'un peu original en fait
sur le papier ça serait pas la règle
D'accord.
ça serait plutôt de diviser les deux comme dans n'importe quel sport classique.
D'accord, les connais non plus. Hein,
T'as raison.
Mais... Vraiment, les connais, ça va bien. Quoi.
Mais là, en l'occurrence, voilà, ça dépend de la population qu'on a inscrite.
Ok.
Et Frédéric, juste pour rebondir là-dessus, Frédéric Berdon, effectivement, dans l'assaut depuis des années, et elle est montée vraiment gentiment, et là, l'année dernière, championne du monde IGSA. Alors, pareil, dans notre milieu, vous avez vu IIDA, IGSA, IDF. À l'échelle internationale, il y a des organismes qui se créent, qui se se désintègrent la Zénaprev, enfin bref.
C'est comme nous, quoi. Nous, on défait.
Il voulait la placer, en fait. C'est celui qui fait, c'est soit sa voix.
Ouais, mais c'est pour montrer à Lulu, il faut un contexte, il faut un moment pour la placer, quoi. Merde.
Actuellement,
Parce que Didou, il te dit tout le temps, Lulu.
Pour les Coupes du Monde, là, il y a deux organismes. Il y a IGSA et IDF. IGSA, je ne sais même plus exactement, mais ça doit être International Gravity Sport Association. Et puis, avec mon accent anglais parfait. Et puis, IDF, International Downhill Federation.
Mais c'était quoi sa discipline, pour le coup
Elle est street luge.
Elle a quel âge ?
Elle doit avoir 35 ans, je pense.
Ah oui, donc tu vois,
35, 37 ans.
D'accord.
Ouais. Elle n'est pas fort jeune, alors ?
Non, elle est parisienne.
D'accord.
Et donc voilà, ça fait partie.
Bah, félicitations quand même. Hein.
Ça fait
personne n'est parfait.
Ça fait partie des gens qu'on a rencontrés sur les événements, avec qui on a créé des liens d'amitié forts, et qui, du coup, depuis des années, restent dans notre asso. Ils ont beau être à 100 km, alors c'est vraiment pas loin en même temps, ils sont à 120 km de chez nous, mais c'est pas un problème, ils sont licenciés chez nous et ils viennent toujours avec plaisir nous revoir.
C'est cool. Très bien. Toi, ta discipline de prédilection, c'est laquelle finalement dans toutes celles que tu as évoquées ?
Fais une longue question parce qu'il mange à M&M's ouais, là. Voilà. Fais une longue question alors, comme tu sais les faire.
Ah oui, pourtant j'ai essayé de me discipliner.
Mais non, mais vas-y, lâche-moi.
Ah, mais tu fais pas. T'es jamais dans le bon timing.
Parce que si tu es plutôt montagne ou plutôt plaine, enfin ce que je veux dire par là, c'est libre.
T'es mer, campagne ou montagne ?
Oui, mais enfin voilà, dans un championnat du monde par rapport à ta discipline qui est. C'est clair.
Oui, tout à fait.
Non, moi, j'ai occupé le terrain là, j'ai fait comme j'ai pu.
Ma discipline de base, c'est le long skate.
Ah, le long skate, ok.
Le long skate, on va dire que c'est un peu la discipline phare de. D'accord. Peut-être pas à juste titre, mais c'est comme ça. Voilà,
c'est par là que ça a commencé en fait, peut-être. Et puis,
est-ce qu'il y a des trucs que tu ferais jamais ? Ou est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais envie d'essayer ? Enfin,
en termes
on reste dans le même
sport,
domaine. Hein.
En restant
oui, on parle pas de la piscinière là. On est bien d'accord.
Oh là. En termes de sport extrême, en termes de sport extrême ou en termes de sport dans ma propre fédération.
Dans ta propre fédération.
Fais tout.
Mais en termes de glisse après. Et après en termes de glisse.
Moi j'ai des trucs à te dire.
Alors typiquement il y a une nouvelle. Comment je pourrais dire ça, un nouvel type de pratique.
De discipline.
Alors pas de discipline, c'est vraiment, ça reste dans le long skate, mais un autre type de pratique du long skate qui est en train de se développer depuis 2 ans, qui est vraiment à la mode, qui est perso, je trouve ultra dangereux.
C'est en avant.
En gros, au lieu de freiner, alors nous pour freiner, on l'a pas dit tout à l'heure, mais en gros pour freiner, on a deux possibilités. Soit sous nos pieds, on a du pneu de voiture. On a beau être debout sur notre skate, on est capable de se mettre en équilibre sur juste une jambe, celle qui est devant, la plupart du temps. Il y en a qui font l'inverse, mais ils sont à part. Donc, pied en avant, vraiment sur le skate, en équilibre. Et puis, l'autre pied, on le pose gentiment, tout doucement, sur le bitume. Et puis, on est capable, en appuyant, en exerçant notre poids sur ce pied qui frotte sur le bitume, de freiner. Ça, typiquement, c'est le genre de truc que tu commences à 10 km/h, tu te casses la gueule. Tu recommences, ainsi de suite, t'es capable de le faire à 20, à 30, et puis à un moment donné, là maintenant, nous on est capable de le faire à 60, 70 km/h.
Mais quand tu fais ça.
Je sens que ça intrigue cette
Laissez-le finir, Justine.
Oui, parce qu'il y a une deuxième technique.
Laissez-le finir, d'abord.
Mais je veux dire, tu gardes les mains sur ton guidon torsadé pendant ce temps-là ou pas?
Et ensuite, la deuxième technique, c'est carrément, on se met accroupi. On tient la planche avec une des mains.
Ouais, c'est ce qu'on voit faire, ça.
L'autre main. Donc ça, c'est pour vraiment freiner franco et le plus rapidement possible.
C'est le frein à main, quoi. Ça,
c'est un peu le frein à main. Et de là, tu te mets accroupi et tu fais un slide, on appelle ça, d'une glissade contrôlée.
On mettra des vidéos de toute façon sur le blog que vous, pour ceux qui connaissent pas, se rendre compte de la, c'est quand même un geste assez spectaculaire de vous voir vous mettre à la perpendiculaire de la pente et là, puis de s'arrêter en 3 mètres quoi.
Il a pas fini.
Voilà. Pardon, non, pas de souci. Et donc là du coup, ce que je voulais venir, c'est que la nouvelle technique depuis à peu près 2 ans, c'est de freiner sans les pieds et sans les mains.
Ah, avec quoi?
On se dit,
tu fais juste comme du snow, quoi.
Exactement.
Tu veux en venir.
J'ai bien une image dans la tête.
C'est exactement comme le snowboard.
D'accord.
Sauf que,
T'as pas l'écart et la glace.
La neige, voilà, t'es pas sur la neige.
Tu fais comment?
Que la glissade, elle est hyper compliquée à maîtriser. Enfin, c'est des mois et des mois d'entraînement. Ouais, en gros, c'est le poids. Tu t'arrives à faire.
Tu te mets sur les talons et puis.
Là, t'as des roulettes, quoi. Donc, c'est pas.
Donc là, tu butes et puis tu fais la recul but en avant.
Alors voilà, en gros, les premières fois, les mecs qui font ça, notamment sur Internet, il y en a des centaines de vidéos comme ça, où le gars il teste pour la première fois, il fait un vol plané monstrueux quoi. Typiquement, c'est le genre de truc que je ne suis pas capable de faire, je ne ferai jamais.
T'as pas envie forcément.
Mais c'est magnifique à voir. Enfin,
quand ça marche,
les gars qui maîtrisent.
Mais c'est pas lié à l'adhérence des roues, enfin au matériau de roue qu'on va mettre, parce que ça va adhérer plus ou moins. Si on met un matériau qui adhère peu, on va pouvoir glisser plus.
Alors, tout à fait. On a différentes duretés de roues.
C'est ça.
Encore une bonne question, Christophe.
Ah ouais, bravo.
Ça va.
Et donc là, pour faire ce genre de figure, on peut appeler ça une figure. On appelle ça même un power slide.
Jack Black, Pick of Destiny.
Pour faire un power slide, il vaut mieux avoir des roues bien dures et qui vont pas raccrocher à un moment ou qu'ont une glisse fluide quoi. Mais même avec ça, c'est hyper chaud.
Marius, ça fait un quart d'heure qu'il lève le bras.
Ça faisait une demi-heure, mais c'est pas grave.
Donc, moi, j'ai. Pour toi, donc les grosses frayeurs et accidents, est-ce qu'il y a déjà eu, enfin des grosses chutes pour toi dans ton cas?
Oui.
Et des grosses frayeurs.
Il a pas de physique difficile par hasard.
Merci Freddy. Donc alors plus grosse frayeur, ça remonte à très loin. Hein. C'était au tout début. À l'époque où on n'est même pas encore d'assaut, donc on n'avait même pas de casque pour te dire. On descendait sans casque. Nos parents savaient pas.
En t-shirt.
Mais moi j'aurais une petite anecdote après. Vas-y.
Ok. Et puis on descendait à la Halotière, à côté de chez Joe. Enfin bref, la Halotière, une petite route de campagne, large pour une voiture globalement. Alors bonne visibilité, on voyait bien loin, mais voilà. On avait un niveau débutant, donc ça aide pas non plus à gérer le truc. Nous voilà partis à 5-6 copains, donc sans casque, je le répète, avec tout juste des gants, voilà. Et puis, arrivé en bas, on devait peut-être être à, je sais pas, 30-40 km/h à l'époque. Une voiture se présente. De là, on savait tout juste comment freiner, donc ça a été branle-bas de combat. Globalement, tout le monde s'est envoyé dans le décor pour pas aller taper la voiture. Moi j'ai tapé la borde d'Alexis Caillot, il s'est fait, on appelle ça une pizza dans notre jargon, il s'est fait une brûlure monumentale des fesses et du dos, mais un truc
Vous faisiez ça en t-shirt
On n'avait pas de combinaison de cuir, enfin voilà, je me reverrais même pas le refaire ça tellement c'était n'importe quoi, mais bon, on était jeunes et fous. Et voilà, et moi du coup scaphoïde, c'est le petit os du poignet, scaphoïde pété. Donc 3 mois de plâtre.
Un moindre mal.
Voilà, un moindre mal. Ça aurait pu être vraiment.
Ça aurait pu être. Je me rabougoutais par contre.
Vous êtes quand même des frappadingues, parce que je me rappelle quelques fois où, comme on disait tout à l'heure, on est issu de la ville de Forges-les-Eaux, et je vous voyais le week-end après vos folles sorties, où il y en avait toujours un qui avait, comme tu dis, une pizza à montrer, où effectivement il était brûlé de l'épaule jusqu'au bas du dos, il pouvait pas mettre le t-shirt, il se baladait, enfin c'était une torture. Enfin, moi, c'est vrai qu'à l'époque, vous m'avez pas incité à
franchement. Ouais, parce que j'avais ça.
Et pourtant, t'aimes la pizza.
Et pourtant.
Pourquoi t'as pas suivi, toi, dans ce rôle-là, donc Nico,
ah, déjà, moi, je suis plus vieux que déjà. Oui, on a 5 ans et. On a 4-5 ans d'écart. Et c'est vrai que 4-5 ans, quand t'es au lycée, c'est énorme. Quoi. Vite, ouais. Donc, on se connaissait, mais on se côtoyait pas plus que ça. On se voyait. Puis moi, j'étais plus foot et musique.
C'est tricot, toi, en plus.
Je faisais du football, moi.
Ouais, j'ai une petite anecdote un peu rapide. Enfin, je vais faire rapidement, mais on était parti chez tes parents, Nico. Je sais pas si tu te souviens de ce truc-là. Il y avait des stagiaires italiennes à l'époque à Forges.
Ah, je me doute pourquoi t'étais venu. Alors.
Et donc on était venu pour faire peur. On avait lancé des poules dans les tentes. Enfin, il y avait des gamins qui campaient dans les cours de tes parents.
Ah, je me rappelle pas.
Et donc on était parti en vadrouille comme ça. Et en venant, on avait croisé. Alors il y avait Pascal, il y avait Alexis. Je sais pas si t'étais là, mais on les avait croisés en ville sur leur skate. Et ils s'étaient accrochés à la voiture. Et je sais plus si c'était la 4L ou la 305.
Elle est précise ton anecdote. 4L.
Je me souviens qu'il avait accéléré, et qu'il tenait bon comme ça sur le côté de la voiture. Et évidemment, rétroactivement, je me dis c'était hyper dangereux.
Ils ont fait un peu du Marty McFly dans Retour vers le futur, quoi.
Et je pense que les stagiaires italiennes qu'on avait emmenées ce soir-là en promenade, elles ont été marquées à vie par tout ce qu'elles ont vu dans la même soirée.
Attaquées par des poules, voir un mec en 4L s'exciter avec des mecs accrochés.
Et encore, ça, c'est qu'une soirée, elles ont vécu des trucs, mais bon.
Ok, on va te laisser ce...
Ouais, tout à fait exact. Ouais. Je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade.
très juste, Christophe, ce soir. Je rigole. Eh bien, je pense qu'on a fait déjà un bon petit tour de la question. Je sais pas si vous avez d'autres sujets à aborder, ou si, Ludo, toi, tu avais des sujets que tu voulais absolument nous présenter.
Après, vas-y. Ça va être répété, parce que je l'ai peut-être déjà dit, mais...
Les dates.
Les dates.
Ouais. Donc, les dates, les horaires et les points de rendez-vous. L'événement
se déroule 8, 9, 10 mai à La Bouille, donc, à côté de Rouen, à une douzaine de kilomètres. Accès par Moulineau, c'est important, puisque justement la route d'accès à La Bouille sera fermée, donc accès par Moulineau, c'est un sortie à 13, et puis donc 8, 9, 10 mai, et globalement les horaires, donc ça commence le vendredi à 13h et c'est jusqu'à dimanche à 17h30, les podiums 17h30, et le soir ça s'arrête à 18h30.
D'accord.
Voilà, il y a une randonnée roller qui est ouverte à tous. Donc je vous invite à y venir.
Faut que je ressorte mes rollers.
Non, mais t'as une paire de rollers dans ton garage, tu la ressors et c'est parti. La randonnée roller se fera en fait. Vous traverserez le bac de La Bouille à pied, et ensuite ça se fera sur la piste cyclable de côté rive droite en face. D'un côté aller-retour vers Sahure, et ensuite aller-retour vers Saint-Pierre-de-Manneville. En tout, ça fait 15 km de randonnée roller.
C'est sympa.
Donc, je pense aux gens qui nous écoutent à l'autre bout de la France. Mais que c'est que ces noms de patelins improbables.
Moulineau, La Bouille.
Tu prends le bac de Sahure. Tu crois dans un sketch de Chevalier Las Palès.
Qu'est-ce que ça veut dire, tu prends le bac de...
Il tourne à droite. Lorcher, Notre-Dame de Beaucerville.
Après Touffreville-la-Corbeline, tu tournes à gauche.
Oh l'eau, tu passes par Touffreville-la-Corbeline. Par là.
Exactement ça. Ben, ça vous donnera peut-être envie de venir visiter notre belle région et de voir un peu que c'est pas des noms qu'on invente, ils existent vraiment. Donc faut venir les voir.
Il y a de quoi se stationner pour ceux qui vont venir en voiture.
Voilà, tu m'as regardé tout à l'heure, t'as fait seulement regarder le parking.
Pose la question.
Alors il y aura le petit plan de toute façon diffusé sur Facebook, mais ce qu'il faut retenir, c'est accès par Moulineau.
Oui. Vous suivez les flèches.
Et voilà, Moulineau, et après une fois que vous allez arriver à La Bouille, vous allez tomber sur le parking qui sera dans un herbage.
Par contre, accéder au spot de vue, quoi. Donc il faut quoi ? C'est à pied ?
Ah bah oui. Là, ça se fera à pied.
Entre les courses, forcément, parce que sinon...
Voilà, à pied, entre les courses. Là, on est encore en train de négocier un bus communal. Celui de Forge, pour tout dire.
Pour faire remonter par navette, quoi.
Voilà, en gros, pour faire remonter par navette. Ça va être un peu compliqué, je passe les détails. Mais bon, pour l'instant,
il n'y a pas moyen de couper par des sentiers dans la forêt.
Aussi, on peut. Il y a des possibilités. Donc,
il y a des loups.
On informera le public arrivé une fois sur place. Voilà, de dire vous avez telle possibilité, en fonction de leur capacité physique, parce que globalement. Oui. Il y a des accès, mais ça peut être un peu bien rude. Donc, à voir. Si on a le bus, ça sera accessible à vraiment n'importe qui.
D'accord.
Si on n'a pas le bus, ça sera
un peu plus sportif.
Malheureusement,
quoi.
Voilà, un petit peu plus.
Ah,
sportif.
Ça fait un peu d'activité physique, ben, ça voilà. Fait du bon, ça fait du bien.
Mais il a raison, Ludo, quand il dit que c'est un cadre, un superbe cadre. C'est magnifique la bouille.
La bouille, c'est très très joli.
Bah, de toute façon, il y aura certainement des photos, des vidéos. Vous êtes des adeptes de GoPro et de ce type de matériel, donc on verra des vidéos sur YouTube et puis nous. On
sur Google Plus,
et sur Google Plus, on partagera ça à Monsieur B. Et puis
on a même, et je pense que du coup, on clôturera peut-être avec ça. On est en partenariat avec une jeune société qui vient de se créer, une connaissance à nous qui s'appelle Highline Films. Il est pilote de drone à la, à la base. Il s'appelle Pierre Smigel. Je lui fais beaucoup de pub parce que c'est un chouette type et il nous a fait vraiment des prix au top pour l'événement. Donc lui et ses collègues cadreurs professionnels, on va avoir 4 cadreurs professionnels au sol et plus lui en drone.
Ça va être impressionnant.
On va faire une vidéo.
Ça va avoir de la gueule, ouais.
On va faire une vidéo web de 10 minutes.
Wow. Ah, ouais. Mais là, par contre, vous mettrez une vraie musique, quoi, pas du Kenkyu.
avec des interviews. Je vous conseille de mettre. Etc.
Il y a un super groupe qui irait vachement bien. C'est un groupe qui s'appelle Wisdom, je crois.
mais on n'a pas de morceau de 10 minutes, par contre.
T'emmerdes pas, ils font que de la merde.
Non, mais en tout cas, on a hâte de voir parce qu'effectivement, avec. Quand on voit déjà ce que des gens qui sont en plein dans l'action arrivent à cadrer avec les GoPro, etc. Est-ce que ça donne comme impression avoir des professionnels qui prennent
les plans par les professionnels, drones au sol plus les GoPro,
oui, qui vont venir tout s'ajouter, ça peut faire
stop, quoi. Tout ça, c'est bien évidemment grâce à toutes les subventions qu'on a eues, donc de la région, du département.
Oui, parce que t'as pas mal de partenaires.
De la Bouille, de la mairie de la Bouille, de la Fédération française, de la commission de skateboard, etc. Et puis, principalement, d'une marque de boissons énergétiques françaises qui s'appelle Truc de Fou.
Ah, c'est bien ça.
Connaissez français.
Voilà, donc on va faire découvrir cette boisson au public et aux compétiteurs pendant le week-end. On a plusieurs centaines de canettes qui nous ont été offertes par ce sponsor. Et les dernières marques également, les principaux sponsors de l'événement, c'est Riviera, une marque de long skate, et puis Triple Eight, une marque de protection. Voilà.
D'accord.
Merci.
Donc ouais, vous avez
bien géré le truc, quoi.
Vous êtes bien encadré, quoi. Ouais, vous avez tout pour que ça réussisse,
ça
en fait.
Voilà. Maintenant, il y a le temps.
C'est
un peu le.
On a. Il faut pas qu'il fasse super chaud non plus parce que dans les combis en cuir, on
voilà, non plus, non plus.
Un temps comme aujourd'hui,
là, un temps comme ce week-end, c'est juste parfait.
Une vingtaine de degrés, un peu de vent et puis parfait.
Mais de toute façon, même si le temps est maussade, quoi qu'il arrive, ça roulera. À moins que vraiment il y ait l'orage de folie, mais bon.
Oh, ça serait bien, ce bon spectacle.
Ça roulera. Et puis notamment les animations, vu qu'on a le gymnase de la Bouille, il y aura de toute façon des animations dans le gymnase. Donc même si le temps est un peu maussade, n'hésitez pas à venir, il y aura quand même de l'action.
Quoi faire. D'accord. Et bah donc rendez-vous le
merci.
Week-end du 8 mai. Merci à toi, Ludo.
C'était vraiment un plaisir.
Donc tu restes
agréable.
Le temps que tu as de disponible. Nous, on va continuer le fil de notre émission. N'hésite pas à intervenir.
Tu interviens quand tu veux.
Quand tu veux.
Pour l'émission est à toi aussi.
Tu peux couper. Et donc merci beaucoup de t'être joint à nous pour faire une.
Ça fut un plaisir.
Attends, je vais essayer de finir ma phrase.
Je t'en prie, finis ta phrase.
Et donc, merci de t'être joint à nous pour nous présenter ta passion. À bientôt.
À bientôt.
Et maintenant, ça va être au tour de Freddy qui revient avec un quiz.
Ouais,
et
oui. Le quiz. Oh, il y a longtemps. Le quiz.
Et puis voilà.
Par contre, c'est peut-être pas nécessaire de leur donner des points.
Ça tombe bien parce que je les ai pas sous les yeux.
Eh ben c'est très bien.
Tu les notes au crayon quand même.
Je fais le décompte après. Ouais, je vais faire le décompte pour plus tard.
Une petite pensée pour Didouille qui va être pénalisé en étant absent évidemment.
Ça me laissera un peu plus de chance.
Alors quelques questions en lien avec notre invité, mais en lien parfois un peu tordu. Vous doutez bien. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Oui.
J'entends rien. Est-ce que vous êtes prêts?
Ouais.
Merde quoi.
Ouais.
Quelle ambiance!
Vous vous souvenez tous du Hoverboard de Marty McFly?
Oh yes!
Dans Retour vers le futur 2 et 3. Oui. Parce qu'on le voit aussi dans le 3, je sais pas si vous vous souvenez.
Bah, c'est ce qu'il sauve à la fin avec la.
Mais dites-moi, de quelle marque était ce Hoverboard?
Mattel.
Ah, ouais. J'offre le point à Nico.
Bordel, merde.
Je lui offre pas d'ailleurs, il l'a gagné. C'était Mattel, effectivement, on le voit avec un autocollant.
Oh, c'était les premiers placements produits des années 80.
Il y en a un paquet dans le 2.
Ah bah carrément. Ouais.
Et ben point Nico.
Namco, c'est le jeu vidéo en plus, je suis con.
Deuxième question, attention.
Mattel, c'est les Barbie.
Oui, c'est vrai.
Ouais, c'est ça.
Mattel, c'est Ken.
Alors, il y a un club de roulette à Rouen.
Un club de roulette.
Ouais, avec du roller hockey, les du derby roller girls. Derby.
Roller derby.
Les veuves noires. Les veuves noires.
Quel est le nom de ce club?
C'est moi qui l'ai dit en premier, les veuves noires.
Les spiders.
Les veuves noires, c'est moi qui l'ai dit.
Le nom du club, c'est les Spiders.
Oh putain.
Je donne le point à Nico.
Il l'a dit il y a pas longtemps, Ludo. En plus, tu l'as
sous les yeux. Là.
En plus, tu l'as sous les yeux sur le conducteur.
C'était écrit où?
Dans les liens, en fait, des clubs partenaires.
Ah d'accord.
Oui, parce que Ludo a dû nous quitter, donc mais on parle de lui à la troisième personne et plus là.
Ludovic Turban, pas de
Ludovic Turban,
pas Lulu.
Malheureusement, c'est Ludovic Turban qui est parti.
Les meilleurs qui partent les premiers.
Je suis toujours là.
Donc oui, effectivement, il y a à Rouen un club de roulette, j'ai appelé ça comme ça,
de roulette.
Avec un très bon club de roller hockey, parce que c'est pas la même chose. Le roller derby, c'est les filles qui font la course en collant déchiré.
Elles sont bonnes aussi, enfin, a priori, elles sont plutôt bien placées.
Il y a des mecs aussi qui font du roller derby.
Oui.
Hein.
Et puis, il y a aussi un club, enfin, je crois qu'ils s'occupent aussi des randos roller, etc. Donc, c'est les Spiders, en effet. Troisième question. On cherche là le nom d'un skater. Alors on peut dire que c'est le plus connu.
Tony Hawk.
Tiens, j'allais le
dire. C'est pas
moi
qui l'ai dit en premier.
Le seul truc que je pouvais dire.
Ah
non, mais on l'a dit tous en même temps.
Non, mais
c'est
la réponse.
Vous
n'avez pas laissé la fin de la question, donc ça se trouve c'est pas.
Non, si, c'est Tony Hawk, mais.
C'est moi. C'est moi aussi.
Mais je crois que vous l'avez tous dit en même temps.
Non, c'est moi.
Mais j'ai dit Tony Hawk.
Pour moi, c'est Delphine. Mais moi, j'avais le jeu vidéo, donc c'est clair. Je suis obligé de connaître. J'avais le jeu vidéo.
Eh ouais. Bah oui, Pro Skater. Et vous savez qu'il a inventé une cinquantaine de figures, ce qui est quand même pas rien.
Oui, le Rock'n'Roll Sandwich, le Derby Bifrost, j'en invente.
Il a prêté son nom à un jeu vidéo, t'as raison.
THPS.
Tony Hawk Pro Skating.
Et peut-être on le sait moins, mais il a aussi joué dans Police Academy 4.
Ah oui, quand même. Ah.
Bizarrement, on le sait moins parce que personne ne savait qu'il existait.
Belle référence.
N'est-ce pas? Et il a fait aussi une apparition dans Les Simpsons.
D'accord.
Peut-être une meilleure référence. Ça, c'était les indices pour si vous ne trouviez pas, mais tu vois, vous avez
c'est...
tous trouvé en même
temps. Attends, c'est peut-être un peu le seul qui est vraiment connu.
Peut-être qu'on le donne à Starlet, mais
allez,
Nico,
on
tu feras juge à la réécoute.
Et je suis sûr que c'est moi. Je suis sûr que c'est moi.
Non, mais de toute façon, on te le donne.
Non, mais
de toute façon, c'était pas, sûrement pas toi. C'était soit Ludo, soit moi. T'es arrivé derrière.
De toute façon, c'est jamais toi.
On y va, question suivante. On cherche là un jeu. Je vous donne un indice pour commencer.
THPS.
C'est aussi un cocktail à base de vodka.
Le russe blanc.
Un jeu. Non,
le Bloody Mary.
Non.
La dame blanche.
Non, non, mais Nico, t'es
le colonel.
T'es pas
colonel.
Non.
Ça
le russe noir, alors. Black Russian.
C'est pas le colonel.
Black Russian, White Russian, je sais pas.
Non.
Red Russian.
Bah,
on
chose,
voit Johnny Depp y jouer dans l'un de ses films.
Le Cluedo.
Dans un de ses
ouais,
films.
Ouais, il fait un Monopoly.
Vegas Parano.
La roulette russe, ouais.
Wouh,
ah, t'as vu russe qui était bon, Nico, mais je peux pas te donner un demi-point là-dessus.
Ah, non, bien joué.
C'est pas possible. Point pour Starlet. Question
ah oui,
suivante.
Roulette, ça y est, je fais le lien. Et dans quel film il...
Ah non, je l'ai pas noté, mais je l'ai vu tout à l'heure.
Vegas Parano, non ?
Ok.
Je suis pas sûr. Je vous le redis tout à l'heure. Alors là, une question d'actu. Qu'est-ce qui a atteint la vitesse de 590 km/h pendant 19 secondes?
Un vélo.
Il y a 2 ou 3 jours. Là.
Un vélo, non.
Et c'est pas Ludo sur son
c'est pas en ski, parce que le mec, c'était 252 km/h.
590.
C'est une voiture.
Ski,
c'est pas l'Aveyron.
Non,
c'est 252 l'Aveyron.
C'est
pas l'Aveyron, non?
L'Aveyron.
Véronne, la.
Oui, l'Aveyron.
Non.
Il est à 400 km/h, elle.
Des rollers.
112, quelque chose comme ça.
Des rollers avec un.
Il y a quelqu'un avec un roller derrière un TGV, j'en sais rien.
Donc comment tu dis, faut
TGV,
être très précis.
Un train. Bah, le TGV, le Shinkansen.
Le TGV japonais.
Le Shinkansen, c'est ça, ouais. Bah, ouais. Bien joué. Mais merde.
Je t'accorde le point parce que Nico t'a dit. Quelqu'un des rollers traînés par un train.
Ouais.
C'est pas tout à fait juste.
Non, mais...
C'est effectivement un TGV japonais qui, lors d'un essai avec des gens à bord, a atteint la vitesse de 590 km/h.
Sans tous les
indices,
c'était comme 590.
Pendant 19 secondes, il a fait une pointe à 590.
T'imagines? Donc voilà. C'est tout. Il y en a d'autres.
Question vitesse, non? Il y en a d'autres.
On aime bien tes questions, mon Freddy.
Alors, il y en a une dernière.
Vas-y, fais péter.
Allez, on va mettre 2 points pour celle-là.
Oh là, yeah, oh là là.
Challenge.
Une question cinéma.
Est-ce qu'on peut remettre nos points? Tu sais, ce serait drôle aussi de remettre nos points.
Ah, comme au poker. Allez,
all-in.
Super banco. Super banco.
Banco.
Je mets tous mes points.
Moi, j'en ai pas beaucoup, je les garde, la merde.
Marius, tu risques rien, toi, tu peux tout mettre.
Parce que je sais quasiment le film qu'il va dire. Et j'en suis
évidemment, tu regardes sur son truc depuis tout à l'heure.
Il n'y a pas la réponse sur mon truc.
Ah bon?
Non, non, il sait maintenant.
Quel est le titre de ce film réalisé en 2007
Bliss.
Par Gus Van Sant.
Oh non.
Rollerblade.
Qui a pour héros un ado skateboarder.
Non, Elephant.
Non.
Rollerblade.
C'est effectivement Gus Van Sant, mais c'est pas celui-là.
Awake. Non.
Je connais pas tellement Gus Van Sant, donc.
En 2007.
Ouais.
Ah, c'est pas Elephant.
N'est pas l'image de ce gamin blond, les cheveux un peu longs.
Par si, contre, si, il a une tronche un peu. C'est le mec sur le truc de Kurt Cobain.
Oui, c'est ça en fait. C'est un peu l'esprit. Il a un peu une tronche de Kurt Cobain, le mec, sur la photo.
Un peu.
Last Days ou un truc comme ça.
Non,
c'est Last Days. C'était
Last Roller.
Rollerman.
Rollerblade.
Le roller de la mort. Death Rolling.
Non, c'est pas un film de Tarantino, t'as dit.
Rolling, Flame, Rolling.
Il n'y a pas eu de traduction française du titre, on le retrouve rolling, tel rolling. Qu'il était.
Rolling. Skater. Pour
non.
La vie.
Skater forever.
Non, je connais vraiment pas les bandes
de sante. On fait du skate où?
Skatepark.
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 Donc,
Central Park.
Park. Skater
Park.
Attends, ça dit quelque chose.
Central Park.
Je vais vous donner un bel indice quand même. Je vais vous donner la moitié du titre.
Oui. Ken Park.
Non.
Roll Park.
Ah ouais, ouais.
Roller Park.
Skater Park. Non. Skate Park. Roller Park.
Get Park.
Wheel Park.
Central Park.
Non.
T'as pas un autre indice pour quelqu'un qui a jamais de points?
Center Park.
Parc d'attraction.
Social Park.
Non.
Park.
Kill Park.
Non, attends.
Death Park. Flame non. Park. Nick Park.
Ta gueule. Slide Park.
Chocobon Park.
Quel Park.
Je fais du roller dans mon parc, ouais.
T'as pas un autre indice pour la deuxième partie?
Ouais, si, ouais. C'est quasiment.
Le premier mot, le deuxième mot.
C'est quasiment une maladie mentale, on va dire, le premier mot.
Parking
Marius Park.
Fou Park.
Crazy
Park.
Park.
Crazy Park.
Paranoid Park.
Paranoid Park.
Paranoïaque, paranoïde.
C'est en anglais,
le
je suis
double
désolé.
Point, double point pour Lulu.
Ah oui, t'avais 2 points en plus.
Ah ouais, j'avais 2 points.
Banco, c'est vraiment écœurant.
Avec mon super banco, je ramasse combien là?
Banco, banco, banco.
C'est injuste, c'est injuste.
1000 euros.
C'était vraiment très intéressant.
Bon, en tout cas, vous êtes bien nuls en souvenir.
C'est ça,
merci à vous, c'est fini pour moi.
Donc, ça, pour cette séance...
Moi, je revendique la moitié du point. Ça fait un point à deux. C'était une question à 2 points. Je revendique l'autre point. Un point chacun.
Sûr que si Didouille avait été là, elle aurait trouvé.
Paranoïaque, paranoïde, enfin je veux dire.
C'est pas pareil.
Il y a une voyelle de différence.
Je me suis fait niquer les points par moins que ça.
C'est injuste. Ce quiz m'énerve.
Eh bien, on va te laisser la.
Je me casse.
On va te laisser la parole. Avant que tu te casses, on va peut-être te laisser. Ah oui.
Il y a quelque chose qui me chiffre.
C'était pas ça que tu voulais lancer.
Oui.
Je sais que tu voulais lancer ça.
Si ça continue comme ça, moi je te dis tout de suite.
Exactement.
Ah, il est tellement agacé, il a pas trouvé le bon bouton.
Eh ben écoute, tu vas pouvoir te détendre.
Ah non, pardon.
D'abord, finis ton 60 secondes chrono, puisque c'est maintenant le moment de la dernière rubrique, les 60 secondes chrono. Et donc, tiens Christophe, est-ce que tu veux commencer? Puisque tu m'avais l'air d'avoir la parole
oui.
Libérée. C'est parti?
Oui.
Alors, toi, tu nous présentes. Oui. Alors, attention, c'est. Je vais essayer de lancer les deux en même temps. Vas-y, t'es prêt?
Oui. C'est parti. Donc, un petit coup de cœur musical du nom d'un pianiste qui s'appelle Chili Gonzalez. Un album qui s'appelle Chambers, qui est sorti en mars dernier. C'est grâce à Monsieur J.R. Frégé.
Frégin.
Frégé, c'est mon repère.
Excuse-moi.
C'est Elodie Frégé.
Qui m'a fait découvrir ce personnage que je connaissais pas et sa musique est très jolie. J'ai juste envie de vous laisser écouter.
Vraiment. Faites abstraction des tic 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 tic. Mais c'est vrai que l'album est très.
C'est terrible, ça.
Écoutez-le chez vous, écoutez-le à oreille reposée. Mmh.
C'est vrai que c'est terrible ce petit.
Ben oui, parce qu'en fait, ça
dénature complètement.
Ça dénature complètement le morceau, en fait.
Et puis, c'est pas en rythme. Hein.
Alors, c'est. Ah oui, en plus.
Mais c'est vrai que Arnaud disait que certains morceaux avaient des tonalités ou des ambiances à la Miyazaki. Enfin, pas Miyazaki, plutôt oui. Joe Hisaishi.
Oui, d'accord.
C'est vrai qu'on voit ce genre de musique dans un Porco Rosso ou un château dans le ciel. Vraiment des choses contemplatives. Et alors tout l'album est pas comme ça, mais c'est
non, mais il y a quelques morceaux.
L'album
qui sont
est vraiment
beaux,
très
quoi.
Très sympa quoi. Donc son dernier album.
Donc moi c'était une découverte.
C'est un monsieur qui est vraiment très, qui a, je dirais, un talent multicarte. Il fait vraiment beaucoup de choses. Il fait des bandes originales
multisexe
de films.
Aussi,
multisexe aussi. etc. Donc je vais passer la parole à Monsieur Ludo.
Alors Monsieur Ludo, qu'est-ce que tu nous présentes toi? Attends, parce que comme t'as répondu au dernier moment, il y a un texte à passer.
Il y a de la musique.
Il y a de la musique.
Enfin, ça va être juste le début, c'est pas forcément révélateur du coup de
c'est un coup de cœur ou un coup de gueule?
Un coup de cœur, non, un
coup
de cœur.
Es-tu prêt?
Je suis prêt.
C'est parti.
Bien, moi aussi, je vais vous parler de musique avec... n'écoutez pas le petit clic-clic derrière, le petit chich derrière, c'est pas du tout le morceau originel. Je veux parler d'Orange Orange Blossom, donc groupe nantais formé en 93. Et ils nous reviennent depuis 2014 avec un nouvel album qui s'appelle Under the Shade of Violets, qui est juste avec une nouvelle chanteuse aussi qui s'appelle Hend El Awari. Et c'est juste un album de toute beauté en fait, là vraiment avec des climats qui sont à la fois contemplatifs et c'est entre l'électro, le trip-hop, le rock, les sonorités orientales. Et ce que j'adore particulièrement, c'est la façon dont ils gèrent les climats et les envolées qui se font, les montées progressives des morceaux qui sont juste sublimes. Et notamment ce morceau, le morceau que vous écoutez qui s'appelle Picha, on n'aura pas l'occasion de l'écouter en entier, mais ce morceau là finit de façon vraiment magistrale. Et vraiment je suis eu l'occasion de le voir avec Starlet en concert. On a eu l'occasion de les voir il y a deux semaines. C'est un concert formidable, allez-y si vous avez l'occasion.
J'ai jamais ressenti ça en concert en fait, ils m'ont vraiment embarqué dans leur truc, c'était incroyable
fantastique. Voilà.
Je les avais vus en 2004 ou 2005 à Budapest, 2005. Ça reste un beau souvenir.
Je les avais vus quand avec Everything Must Change, leur album.
On les avait vus au Trianon.
On les avait vus au Trianon à l'époque. Ouais. Avec leur ancienne chanteuse Leila Bounous.
Oui, c'est ça, oui. J'avais interviewé.
Et en fait, ils ont fait manifestement, ils ont chacun trouvé leur voix de manière séparée.
C'était incroyable.
Mais la nouvelle chanteuse est vraiment fantastique. C'est complètement un autre style, un autre personnage, mais c'est très envoûtant. Et les arrangements sont somptueux.
Bon ça fait plus d'une minute.
Voilà. Là,
j'ai vraiment aimé.
Je sens que Freddy bouillonne. Ouais,
on va être obligé de prendre un flic pour faire l'émission.
Pourquoi je le fais? C'est parce que j'ai eu 2 points la dernière question.
ça fera moins un.
Et donc Freddy qui trépigne d'impatience, qui s'énerve, qui boue.
Ah, je suis énervé.
Je pense qu'il a quelque chose à nous dire. Il va nous faire partager. Là, monsieur n'est pas content et il va nous le dire. C'est parti.
Je suis agacé.
Oh là là.
Je vous le dis tout net. Alors, pas par le conducteur de cette BMW qui m'a coupé la route et dans lequel je suis rentré en vélo cette semaine.
Oh merde.
J'aurais pu. Mais là, je suis vraiment agacé par cette nouvelle manie qu'on a en France de faire des remakes, des films québécois notamment, qui sont des succès, qui sont des réussites.
Tu penses à un en particulier?
Et je pense à deux en particulier. Alors, je sais pas si vous avez vu La Grande Séduction, qui est un chef-d'œuvre québécois. Et qui a été refait à la française, qui s'appelle Un village presque parfait, qui est tourné dans les Pyrénées, avec, attention, les références, Didier Bourdon et Elise Moon. Bon, enfin, je vous fais pas de tableau, je suis pas allé voir le film, mais je vomis le fait qu'on puisse faire le remake de ce film qui est un chef-d'œuvre en
suffit à lui-même,
en soi, oui, mais complètement. Mais en plus, il est québécois, enfin, c'est pas un film américain, c'est pas, bref. Même chose avec Starbuck, qui est hyper drôle, touchant, qui est vraiment réussi.
C'est Fonzie.
Eh ben, on en a fait Fonzie avec José Garcia.
Mais
quel intérêt, quoi. Enfin, on n'a pas assez de talent en France pour confier de l'argent à d'autres qui auraient d'autres idées,
des projets, des récréations.
Ils font exactement la même chose.
Alors, c'est du plan pour plan en ce qui concerne Un village presque parfait.
La bande annonce,
Fonzie, c'est rare, mais j'ai failli partir avant la fin.
Ah ouais, quand même.
J'ai failli partir.
Mais enfin, peu importe que le film soit bon ou pas, c'est l'original,
c'est la
création, tellement bien
tu veux dire,
de
mais
toute
oui,
façon.
J'y avais été pour Garcia parce que j'aime bien Garcia.
Mais les Américains font la même chose.
Oui,
avec
mais
les
oui,
films
mais
français.
C'est pour ça, tout c'est aussi pour ça que ça me gêne.
Les Visiteurs,
par exemple.
Tu as des films qui ont même été repris, comme tu disais, plan par plan. Enfin, je veux dire, des films comme Morse. Ça, je parle pour le remake. Morse, qui est une histoire de vampire, de voisin. Oui. Et en fait, ils ont fait exactement un remake, mais assez proche original.
Dans une autre idée, ce qu'on avait déjà évoqué à ce micro, c'est Les Revenants.
Oui.
J'ai vu qui est disponible sur Netflix. J'ai vu 20 minutes du premier épisode.
Plan pour plan.
C'est plan pour plan. Oui, voilà. Les mêmes phrases au même moment.
Mais est-ce qu'on a, après, qu'on a des exemples de réussite que le remake était mille fois mieux?
Alors,
que...
je sais pas, nous on regarde Shameless en US.
Oui, j'en ai un.
Et je trouve que c'est... on a regardé l'anglaise et on n'a pas adhéré à l'anglaise qui était l'original. Et par contre, l'américaine, on est dedans au bout de cette saison. Enfin, on est à fond dedans. On viendra dessus sur un autre épisode, je pense d'ailleurs.
Les Américains ont fait un remake de La Totale de Claude Zidi avec Thierry Lhermitte.
Oui, exactement. Schwarzenegger.
C'est James Cameron qui a fait le film. On est parti sur autre chose en même temps. Mais bon, là, on peut considérer que, franchement.
C'est plus une adaptation.
Mais on peut voir comme ça, oui.
Mais c'est effectivement le côté facilité, mais qu'on peut voir dans les franchises, adapter des franchises plutôt que de faire des films.
Mais au-delà de ça, c'est aussi prendre les gens pour des cons, de dire, bah, ils n'ont pas vu ce film, on va le faire en film français, quoi.
Cela étant, il y a certainement beaucoup de gens qui n'ont pas vu La Grande Séduction.
Mais oui, mais enfin, c'est une arnaque, quoi. C'est.
Mais bon, voilà. Bref, effectivement.
Ça mérite... J'étais agacé, je vous l'avais
dit. Ça vaudrait tout un débat, ça, en fait.
Effectivement, ça mériterait qu'on y consacre peut-être un jour un débat.
Complètement.
On n'a pas d'invité, bah on fait un débat.
Un débat où on est, je crois, tous
sur certains sujets. Pas forcément.
C'est ça, ça
pas forcément. Pas forcément.
Il faudrait désigner un avocat du diable.
Par rapport à ce qu'on avait évoqué.
Oui, oui, non, mais il faudra qu'on en rediscute. Ouais. Marius.
Ouais.
Toi, tu voulais nous parler.
Alors, moi, ça va être un mélange, moi. Mais vas-y, faites péter. On verra. Allez,
alors,
à l'américaine.
Tu es prêt ? 1, 2, 3, c'est parti.
Donc, étant un grand fan de Sting, de Police, je voulais revenir sur un truc qui est sorti. Enfin, je m'en aperçois qu'il est sorti en 2012.
Hein.
Donc, c'est en 2012, mais moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps parce que.
C'est un coup de cœur.
Mieux tard que jamais, c'est un coup de cœur. Et donc, c'est Walking on the Moon, mis par un projet, donc Roseau, c'est l'album, et puis chanté par Aloe Black. Donc, c'est simplement. Simplement formidable.
Alors, moi, Roseau, c'est l'artiste.
Oui.
Aloe Black accompagne Roseau.
Oui, bah, c'est ça. Enfin, c'est ce que je voulais dire. Et je voulais surtout revenir très très rapidement sur le concert que Ken Kiyou a fait la semaine dernière avec Flipping Hot et Cheap Wine. Où voilà, on a partagé la scène avec ces deux groupes et moi j'ai passé spécialement. Enfin, je pense que tout le monde a passé une très très bonne soirée et j'ai fait un retour en arrière dans les années 70 avec les deux groupes qui passaient juste après nous. Donc je voulais leur faire un petit clin d'œil et les Flipping Hot et féliciter Cheap Wine les deux parce que je suis vraiment rentré dans le concert alors que d'habitude pas dire que je m'en fous un peu mais là j'ai passé une excellente
soirée. Et les trois pièces ils accueillent leurs artistes comme des proches.
Ouais, très bien.
Et en plus on a
et vous avez mangé une omelette frite ou pas?
Oui, non mais
plus que bien accueilli,
et tout,
ouais.
Mais c'est vachement bien.
Qu'a rattrapé ta boulet ou pas?
Ouais.
Exactement. t'es médium.
Et gâteau au chocolat dessert.
Gâteau au chocolat ou pas?
Ouais. Mais n'empêche que c'était
ouais, mais on était bien, on avait 15 euros en boisson qu'on a explosé au bout de 20 minutes.
Non, mais c'est vachement bien parce qu'on a été dans d'autres festivals où c'est un demi-sandwich. Hein.
Ouais.
Je suis
d'accord.
On
ne citera pas de nom. On ne citera pas de nom, bien sûr.
L'accueil à l'air. Et puis, bon.
Il y a juste mon budget conso qui a disparu un moment.
Je comprends pas.
Je crois que j'ai tapé
bien par mes camarades.
Il buvait rien.
De toute façon, Ludo, il boit rien, on peut voir sur son compte.
Ludo, il lui reste combien? Vas-y, je prends bien.
Je suis malhonnête parce qu'en fait, on m'a posé la question.
Oui, je m'appelle Ludo, oui.
Non, mais vraiment.
Ludovine.
Super truc. Voilà. À repartager l'affiche avec ce genre de.
Et donc, Cheap Wine, dont on n'a pas parlé, on a déjà parlé de
groupe d'Amiens.
Mais Cheap Wine, de Clermont.
De Clermont.
En Picardie.
Pas d'Amiens, de Picardie.
Mais qui fait dans un univers assez Led Zepp, un peu d'orgue, avec quelques côtés.
De toute façon, comme dit, on fait un voyage dans les années 70. On fait un retour en arrière.
Exactement.
C'est énorme.
Eh bien, on va passer à un autre style de musique.
Ah oui.
Et pour une fois, c'est pas moi.
Voilà.
Je laisse la parole donc à Starlette. Es-tu prête?
Oui. Je vais moins faire dans le feutré en fait là pour le coup. Mon coup de cœur va au groupe In This Moment, groupe que m'a récemment fait découvrir mon petit homme. Ils viennent de Los Angeles en Californie. Ils ont à leur actif 5 albums studio plus un album live pour le moment. Le titre qu'on écoute s'appelle Bloody Creature Post Girl et est issu du dernier album sorti en 2014 qui s'intitule Black Widow. J'ai regardé quelques vidéos live sur YouTube, ils sont carrément barrés. La chanteuse est un peu une Marilyn Manson féminin. C'est assez spécial visuellement, mais j'apprécie.
Elle doit faire 1m90 l'année.
Et puis elle a des tenues complètement improbables. Allez regarder les mecs. Et même si les morceaux sont toujours construits un peu de la même façon, j'apprécie ce mélange détonnant de chants gutturales et lyriques par moments. J'aime beaucoup. J'écoute ça donc.
Du pop metal, mais qui passe bien.
C'est la plus soft hein, de l'album. Les autres, il y a quand même beaucoup plus de gutturales, mais.
Thank you. Au niveau du son, c'est ce qu'on se disait. On entendait, il y avait, enfin, pas sur celle-là, mais il y avait des réminiscences de Marilyn Manson.
Attaque beaucoup de Marilyn Manson dans l'esprit. Hein.
Ça Pink rappelle beaucoup de choses. Aussi,
Et du, mais c'est sympa.
Et autre chose, c'est vrai qu'on avait même.
T'avais dit, non, c'est Sylvain qui nous a dit, pas Pink, non, c'était ta copine, mince, Katy Perry.
Il y a un mélange de Katy Perry, de Pink, de
Marilyn Manson. Un peu, donc du pop metal.
Ça.
C'est exactement ce sujet. Et puis, pour terminer, c'est moi qui vais clôturer les coups de cœur. Christophe, vas-y. Donc moi, je voulais aborder le sculpteur de Scott McCloud. Donc, l'histoire parle d'un jeune sculpteur désabusé, intransigeant mais sans succès, David Smith, qui accepte un pacte avec la mort, lui permettant de modeler à main nue tout ce qui lui passe par la tête, ce qui devrait le conduire vers le chemin de la renommée. La contrepartie, sa vie, puisqu'il ne dépose plus que de 200 jours pour atteindre ce but et se faire connaître. Peu enclin à la vie sociale, ça ne lui pose pas de problème, jusqu'au jour où il va rencontrer la femme de sa vie, sa muse, qui va tout remettre en cause. Clairement, on voit immédiatement qu'on est dans le mythe de Faust ou la peau de chagrin revisité à notre époque, et ça fonctionne très bien. Finalement, la sculpture en tant que telle n'est pas le sujet principal du bouquin, il pourrait être peintre, sculpteur, musicien. C'est plutôt le rapport global à l'art, à la mort, aux relations humaines qui tissent le récit, et donc chacun peut se retrouver dans l'histoire. La narration est juste excellente, on est complètement embarqué, avec une réelle impression de temps qui s'écoule, et on vit avec David les minutes, heures, jours qui s'égrènent avant d'arriver au terme du décompte final. Le dessin n'est pas révolutionnaire, mais il est précis, voire détaillé par moments, et sert complètement l'histoire, avec son ancrage bleu et noir, et surtout une mise en page hyper efficace. C'est un très bel ouvrage, sur le fond comme sur la forme. Il est disponible aux éditions Rue de Sèvres pour 25 euros, c'est un peu cher, mais pour 500 pages.
Oui, et c'est moi qui vais le prendre.
Ça fait quoi, du 5 centimes la page, ça? C'est pas, ça va?
Non, c'est vraiment j'ai découvert, moi, grâce à un podcast québécois qui s'appelle Les Mystérieux Étonnants. Et ils passent un petit peu à droite à gauche, mais ils l'ont vraiment bien vendu et je suis allé l'acquérir. Et ça m'a pris quelques soirées pour le lire quand même, parce que c'est quand même assez.
J'espère qu'on fait pas le remake du podcast québécois.
Non, je te rassure, Freddy. Pardon. Et donc, nous voilà arrivés au terme de cette émission. Oh. Ah, quand même! Ce fut long. Non, ça a été finalement en termes de gestion de temps.
Ouais, non, nickel.
Mais quand on n'a pas l'italienne, ça se passe mieux, hein.
On n'a jamais fait aussi bien, je crois.
J'ai les oreilles qui vont bien, là.
On verra bien. On verra bien à la fin de, une fois le montage fait. Donc, comme on l'a déjà.
Ah, maman qui est Didouille, quand même. Bidouille, on te fait des gros bisous.
Didouille, on te fait des gros bisous. Et puis, bientôt, on espère te retrouver à notre table, hein, en espérant que tu sois pas complètement percluse de courbatures suite à ta journée. Folle dingue de ton corps que tu as. Je sais pas ce que t'en as fait d'ailleurs.
Maltraiter son corps.
Et donc, vous pouvez aimer la page de l'Entrepode, nous laisser des commentaires sur le blog, sur le blog, vous allez retrouver toutes les informations comme à chaque fois de ce qu'on a présenté au cours de l'épisode. Bien sûr, comme j'ai déjà dit, vous pouvez laisser des étoiles sur iTunes, etc. Nous faire part de vos retours, nous proposer des sujets, peut-être, si jamais il y a besoin, il y a pas de souci. Et puis, on va vous dire à tous à une prochaine fois. Normalement on devrait revenir d'ici un petit mois, il reste à finaliser la date un petit sujet. Comment tu dis, Ludo?
Non, je l'ai posé d'ailleurs, ça tombe bien. J'ai posé ma date.
T'as posé ta date?
L'agenda.
Faut voir. Donc on va voir entre nous, mais normalement on revient prochainement avec encore un sujet qu'on espère intéressant, hein, comme à chaque fois. On a déjà l'invité, donc maintenant il ne reste plus qu'à trouver la date. Et puis à bientôt dans vos oreilles, mais vous inquiétez pas, Ludo revient dans quelques instants, rien que pour vous,
oh là là,
avec
là
une œuvre
magistrale
qui vous fera rêver, qui vous emportera, qui vous bref, enfin bon,
danser tous les
il vendra mieux que nous. Allez, à bientôt,
salut,
ciao, ciao.
On l'a dit en même temps.
Oh la classe.
Ciao, ciao.
À l'Entrepode, nous sommes sensibles à la détresse humaine. Et c'est la raison pour laquelle, pour une fois, je vais être un peu le ton un peu empreint de gravité pour parler d'une fille formidable, inoubliable. chanté par des anonymes, avec toute l'émotion et toute la sincérité qui les caractérise. Bon courage.
Parce que je suis un gars pour toi.
Je n'oublierai jamais le premier jour où j'ai tenté de te faire la cour. Ça avait l'air de t'avoir touché, mais c'est aujourd'hui que j'ai réalisé que je m'étais planté et que j'aurais jamais dû te parler. Je sais que ça ne vaut pas la peine que je t'aime, mais qu'est-ce que je fasse? Je suis en train de perdre ma face. Faut croire que c'est ça l'amour. On le vit autrement, chacun son tour.
Faut croire que je te plais pas, parce que tu me rappelles même pas. Je plais à personne ou quoi? Peut-être parce que je suis pas gars pour toi.
Je n'oublierai jamais le premier jour où j'ai tenté de te faire la cour. Ça avait l'air de t'avoir touché, mais c'est aujourd'hui que j'ai réalisé. Que je m'étais planté. M'as banni de tes pensées, faudrait peut-être que je cesse de t'aimer.
Mais je ne te laisserai pas tomber, car je suis condamné
à vouloir épouser la fille que j'ai toujours aimée. Tu m'as banni de tes pensées, faudrait peut-être que je cesse de t'aimer.
Mais je ne te laisserai pas tomber, car je suis condamné
à vouloir épouser la fille que j'ai toujours aimée. Tu m'as banni de tes pensées, faudrait peut-être que je cesse de t'aimer.
Mais je ne te laisserai pas tomber, car je suis condamné
à vouloir épouser